Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, il est 6h57, on est ravis de vous accueillir sur RMC Story, à la télé, avec toute l'équipe d'Apolline Matin, avec Victor Pourchet, salut Victor.
Salut Sébastien.
Avec Charlène Villemer pour la météo, bonjour Charlène.
Bonjour Sébastien.
Qui va nous dire dans un instant que la chaleur, ça y est, revient, la canicule, et qui inquiète évidemment sur le front des incendies. On va surveiller tout ça de très près avec toutes nos équipes, bien sûr, encore une fois ce matin, sur place, ce feu qui est fixé dans les Landes, qui est stabilisé en Gironde. Ça veut dire que les choses vont un peu mieux, mais ça ne veut pas dire que c'est gagné. Il y a encore des reprises de feu. Et évidemment, avec cette canicule qui arrive, les pompiers sont encore sur le pont et au front. On s'arrêtera ce matin sur les conséquences économiques de ces incendies. Ce sont des milliers d'entreprises qui sont impactées. Il y a celles qui ont brûlé, évidemment, et puis il y a celles qui sont empêchées de travailler parce que dans les zones évacuées, il y a le tourisme à l'arrêt, le BTP et tous les autres secteurs. Le gouvernement a déjà annoncé des mesures de chômage partiel. Est-ce que les assureurs vont jouer le jeu? Je poserai la question tout à l'heure au ministre de l'Industrie, Sébastien Martin, qui sera notre invité à 7h40. Et on attend vos témoignages au 32-16. Si vous êtes entrepreneur, salarié, évacué, empêché d'aller travailler, professionnel du tourisme, hôtelier, restaurateur, comment est-ce que vous gérez ces incertitudes? On vous attend 32-16. Vos messages sur le 0612 424 424 sur WhatsApp. Et puis à 8h40, c'est l'écologiste Marine Tondelier qui sera avec nous. Elle estime que le gouvernement a une lourde responsabilité dans tout ça. Elle parle de pyromane politique. Qu'en pensez-vous? Vous réagissez au 32-16. Et puis l'autre grand sujet du jour, évidemment, c'est Zidane qui va devenir le sélectionneur des Bleus aujourd'hui. On en parlera avec Eric Dimeco juste après le journal de 7h. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est l'homme de la situation? Zinedine Zidane, sélectionneur des Bleus, 32-16. Et le WhatsApp RMC vous est ouvert. Bienvenue à tous et bon réveil, vous êtes sur RMC, il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal avec Clara Gabillet, bonjour Clara.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Une situation très imprévisible en Gironde. Le feu pourrait s'aggraver encore aujourd'hui à cause des fortes chaleurs. Emmanuel Macron, en déplacement hier, appelle à l'unité autour des pompiers. Des mesures d'urgence pour aider les sinistrés. Le délai est prolongé pour déclarer un sinistre auprès des assurances. Les évacués seront remboursés de leurs frais de relogement. Et puis bientôt la révélation d'un secret de polichinelle. Zinedine Zidane sera officiellement annoncé comme nouveau sélectionneur des Bleus ce matin. Reportage dans son quartier d'enfance à Marseille en fin de journal.
Toujours de l'inquiétude en Gironde où les semaines à venir seront très dures, prévient Emmanuel Macron.
On doit tenir, a dit le chef de l'État en déplacement hier auprès des pompiers du département. Ils sont près de 2800, toujours mobilisés pour venir à bout de ce méga-feu qui a parcouru 42 000 hectares en moins d'une semaine. Thomas Becker, service politique d'RMC, le président les a remerciés et a appelé à l'unité.
Oui, après avoir écouté carte sous les yeux le point de situation des pompiers en salle de crise, le chef de l'État adresse un message de mobilisation et de solidarité.
Il faut qu'on soit unis et en action. Il y a des femmes et des hommes qui risquent tout pour protéger, qui se battent contre le feu. Tout ce qu'on doit faire, c'est les aider. Il y a une chaîne humaine qui s'est faite. On est tous groupés, on y va, on se bat pour gagner la bataille du feu.
Sur le terrain politique, le président répond aux accusations en impréparation, y compris de certains élus locaux.
En 2017, on n'avait pas commandé de Dash depuis 10 ans, on n'avait pas commandé de Canadair depuis 15 ans et d'ailleurs on n'en produisait plus. Je me félicite de ne pas avoir attendu ces feux et d'avoir dès 2017-2018 pris les premières décisions.
Il assure avoir doublé les crédits de la sécurité civile en 10 ans. Un chef de l'État en défense de son bilan, pour lui, un maximum de moyens est aujourd'hui déployé.
Au moment où je vous parle, on a 67 aéronefs qui sont mobilisés en France. C'est un record historique.
Emmanuel Macron qui a répété hier soir la solidarité de la nation pour les personnes évacuées. Il a également demandé au gouvernement d'accompagner les acteurs économiques pour les indemniser en concertation avec les assureurs.
Emmanuel Macron qui a aussi précisé hier qu'il y avait des reprises de feu, des reprises contenues. Rachel Sadodine en direct avec nous pour les toutes dernières précisions. Rachel, la mobilisation des autorités va rester très forte aujourd'hui. C'est ce qu'a dit la préfecture de Gironde, car la situation est toujours très imprévisible.
Oui Clara, l'incendie n'est pas fixé. C'est important de le souligner, même s'il y a quand même du progrès. Malgré de nombreuses reprises, Emmanuel Macron l'a annoncé hier soir, le feu est contenu. Autrement dit, il n'a pas gagné de terrain. Le bilan reste le même. 42 000 hectares de surface brûlée. Évolution positive de la situation, mais les pompiers restent sur leur garde car les températures vont remonter aujourd'hui. Nouvelle vague de chaleur attendue avec jusqu'à 40 degrés cet après-midi en Gironde. Les habitants évacués ont donc toujours interdiction de rentrer chez eux. Les manifestations culturelles, sportives restent interdites dans tout le département. Et puis, il n'y a toujours pas de train qui circule au sud de Bordeaux, sauf en direction de Toulouse et d'Agen.
Et dans les autres départements, Rachel, les nouvelles sont un peu plus encourageantes.
Oui, car il y a dans les Landes, le feu, il a été fixé là-bas avec ce triste bilan, entre 110 et 120 bâtiments détruits. Dans le Var, des reprises ont pu être circonscrites hier soir. L'incendie est toujours actif, hein, on le note, mais des milliers de soldats du feu s'affairent toujours à essayer de le maîtriser, de le contrôler. Les pompiers qui sont endeuillés ce matin dans les Bouches-du-Rhône, un volontaire est mort dans un accident de la route alors qu'il participait au dispositif préventif dans le cadre du risque feu de forêt.
Rachel Sadodine, vous le disiez, Rachel, un nouveau mort parmi les pompiers, le caporal Laurent Manson, 38 ans. Il partait mettre du carburant dans son camion-citerne lorsqu'il a fait une sortie de route. Les circonstances exactes restent à déterminer. Écoutez la réaction de Bruno Ménard. Il est secrétaire général du syndicat des sapeurs-pompiers volontaires de France.
Encore un, malheureusement. Quand sera le prochain ? On est vraiment anéanti. De plus en plus de fatigue s'accumule au fur et à mesure du temps, de la fatigue mentale, de la fatigue physique. Une chose qui est sûre, c'est que les organismes sont fatigués. Imaginez aujourd'hui, on est fin juillet, les organismes des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires sont dans un état comme si on était fin août, début septembre. Je pense qu'on n'a pas encore tout vu et que le plus dur va arriver. Le mois d'août va être catastrophique, c'est une certitude.
Et un autre accident de camion-citerne hier, cette fois dans le Var. Il s'est renversé. 4 pompiers sont légèrement blessés.
Et on retourne en Gironde juste après le journal avec un témoignage terrible, celui de l'un de ses habitants qui ont tout perdu, qui ont retrouvé leur maison entièrement détruite. On sera au Porges, cette commune martyre dont le maire nous disait hier que 183 maisons ont été détruites. Ce sera juste après le journal. Et dans ce contexte, les assureurs sont appelés à prendre des mesures exceptionnelles.
Après l'activité l'activation du chômage partiel pour les 13 000 entreprises évacuées. Le gouvernement a aussi indiqué que les particuliers seront accompagnés. Sonia Gobry, plusieurs annonces faites hier du côté des assurances.
Oui, le délai pour transmettre les déclarations de sinistrés est prolongé jusqu'au 31 août. Ça laisse un peu plus d'un mois au lieu de 5 jours habituellement. Ensuite, les assureurs prendront en charge pendant 3 semaines les frais de relogement des personnes évacuées en Gironde, dans les Landes et dans le Var, que les logements aient été endommagés ou non. Une mesure exceptionnelle, souligne Olivier Moustakakis, cofondateur d'Assurland.
Ça, c'est une vraie mesure, en effet, et un vrai geste de la part des assureurs. Même sans dommage, d'accord, l'assurance va prendre en charge, en effet, fait les frais de relogement alors sur une période de 3 semaines. Au-delà de ces mesures, le vrai montant d'indemnisation va constituer sur les habitations qui ont été détruites ou endommagées.
À titre de comparaison, pour les violents incendies en Gironde en 2022, près de 2000 sinistres ont été indemnisés pour environ 80 millions d'euros.
Le montant sera plus important qu'en 2022 sur l'ensemble des sinistres parce qu'il y a des entreprises aussi qui ont été touchées. Il y a probablement aussi des agriculteurs dont les récoltes ont été impactées.
Conséquence, il y aura selon lui une nouvelle hausse du prix des assurances alors que les tarifs ont déjà augmenté de 13% en moyenne cette année.
Précision de Sonia Gobry. Le prix des timbres et des colis va augmenter au 1er janvier prochain, plus 6,73% en moyenne, annonce La Poste, à cause notamment de la baisse du nombre de lettres envoyées. Pour une lettre verte, ce serait une augmentation de 10%. Ça représente environ 15 centimes de plus par timbre.
L'actualité économique à 7h07 sur RMC, c'est aussi ce dernier sursis pour les salariés de Fibre Excellence, le numéro 1 français de la pâte à papier.
Un sursis pour les salariés de l'usine de Saint-Gaudens, près de Toulouse. L'offre d'un industriel du bâtiment doit être examinée d'ici à demain. Celle de l'homme d'affaires Mathieu Pigas a été rejetée hier par le tribunal de commerce de Toulouse, ce qui condamne a priori le site de Tarascon dans les Bouches-du-Rhône à la liquidation. Antonin Audion, les salariés que vous avez contactés peinent à garder espoir.
La perspective de la fermeture est difficile à accepter pour Jean-Michel Bullinge, salarié de l'usine de Tarascon.
Beaucoup d'amertume.
Avec le rejet de l'unique offre pour ce site dans les Bouches-du-Rhône, le procureur a requis la liquidation judiciaire.
Pour nous, ça veut dire certainement que les 270 salariés qui travaillent avec moi ici seront licenciés.
Un ultime espoir persiste dans l'autre usine de Saint-Gaudens en Haute-Garonne. Un industriel qui tient à rester discret, à montrer son intérêt, Cédric Biet est salarié de l'usine.
C'est pas fini, il y a toujours une lueur d'espoir et l'envie de s'en sortir est toujours là.
Il va donc maintenir la pression en occupant l'entrée de l'usine à l'arrêt, comme il le fait depuis une semaine avec une quarantaine de ses collègues.
On reste en place, sur le piqué de grève. Tant que l'usine ne redémarre pas, je crois qu'on va rester là.
Une situation qui aurait pu être évitée si l'État s'était plus investi, selon Cédric Cobert, secrétaire général de la CGT en Haute-Garonne.
Parce que depuis 6 mois, le gouvernement n'a rien fait. Il est resté les bras croisés, il n'a pas cherché de financeurs, il n'a pas cherché de repreneurs. Donc on se dit que si le gouvernement avait un tant soit peu joué la partition qui devrait être la sienne, eh bien on ne serait pas dans cette situation-là aujourd'hui.
Le tribunal décidera demain s'il laisse ou non un mois supplémentaire à cet industriel pour proposer une offre de rachat.
Alors y a-t-il encore un peu d'espoir? Peut-on sauver certains de ces emplois et notamment le site de Saint-Gaudens? Je poserai la question tout à l'heure à 7h40 au ministre de l'Industrie Sébastien Martin qui sera sur ce plateau.
En football, l'équipe de France s'apprête à retrouver une de ses légendes aujourd'hui. Mais sur le banc, Zinedine Zidane doit officiellement être annoncé pour succéder à Didier Deschamps comme sélectionneur des Bleus. Après des années de rumeurs, conférence de presse ce matin, 11h au siège de la Fédération. De quoi rendre fiers les habitants de la Castellane, cité de Marseille, où Zizou a vécu jusqu'à ses 15 ans, Antoine Brard.
Oui, le voir diriger les Bleus, ça rend fou de joie le quartier.
C'est vraiment une fierté, c'est une fierté de la Castellane, c'est une fierté nationale, c'est une fierté de la ville.
Fierté, mais aussi source d'inspiration pour les habitants d'une cité qui n'a pas toujours une bonne image.
Ouais, ça donne de l'espoir pour les jeunes, pour nous-mêmes, de se dire que on vient de la Castellane et on peut réussir, on peut devenir quelqu'un de grand.
Et cette admiration pour Zizou est réciproque. Pour preuve, ce message adressé aux jeunes du club de foot de la Castellane avant leur finale, il y a 2 mois.
Le plus important, c'est de prendre du plaisir. Régalez-vous et allez à la Castellane, vous êtes les meilleurs.
Ada, l'entraîneur de cette équipe, l'affirme. Zidane, c'est une vitrine pour le quartier.
Grâce à sa vidéo qu'il a faite, il a eu beaucoup de licenciés qui ont voulu venir au club. C'est la première fois que j'arrive à faire une détection avec 22 joueurs qui ne viennent pas du club.
La cité de la Castellane attend maintenant de voir le premier match de la France, dirigée par son idole, le 25 septembre, face à la Turquie.
Et à l'occasion de cette annonce, RMC bouscule ses programmes. Vous ne raterez rien avec une émission spéciale à partir de 11h. Et ce soir, de 20h à 23h, l'afterfoot entièrement consacré à Zinedine Zidane.
Et puis on vous attend au 32-16. Est-ce que Zinedine Zidane est l'homme de la situation? Vous nous le dites ce matin. On verra ce qu'en pense Eric Dimeco qui sera avec nous dans quelques minutes sur RMC. C'était le journal de Clara Gabier. Il est 7h10 et on va retourner donc en Gironde ce matin dans l'une des communes martyrs de l'incendie. C'est la commune du Porge. Le maire qui était avec nous hier nous donnait ce chiffre de 183 maisons entièrement détruites. C'est plus de 20% de la commune. Et parmi ces maisons calcinées, il y a la vôtre. Yves, bonjour. Yves Brugy-Regarde.
Oui.
Bonjour à vous. Merci d'être avec nous en direct ce matin. Vous avez pu retourner sur place. Racontez-nous ce que vous avez découvert et ce qu'il reste de votre maison.
Bonjour Sébastien, c'est l'apocalypse, c'est inimaginable, c'est un véritable, c'est des visions d'horreur. On comprend pas comment un pays qui se veut être une puissance mondiale puisse faillir à ce point-là et permettre que 183 maisons disparaissent comme ça, que des familles soient brisées.
Ça veut dire que là, il reste. On voit, on a vu un certain nombre d'images et on les voit là pour ceux qui sont avec nous sur RMC Story de paysages quasiment de bombardement où il reste quasiment plus rien. C'est le cas de votre maison. Il y a encore des murs ou il reste vraiment plus rien?
Non, il reste vraiment plus rien. Il y a quelques murs qui sont debout, mais il reste rien. Tout s'est effondré. À l'intérieur de la maison, on ne reconnaît même pas les meubles. Je suis rentré dedans comme les cloisons ont disparu. À un moment, j'étais perdu dans ma maison. Je ne savais pas dans quelle pièce j'étais. C'est terrifiant.
Quand vous êtes parti, vous avez tout laissé sur place. Vous êtes parti dans l'urgence?
Ah oui, on est parti dans l'urgence, les gendarmes sont venus nous chercher. Enfin, nous, on a eu de la chance parce que certaines personnes n'ont pas été averties, nous, on a été avertis. On est parti vite, mais en pensant que c'était juste une mesure de précaution. Et quand je suis revenu, c'est la désolation totale, quoi.
Il y a évidemment
je ne sais pas comment on pourra revivre à cet endroit-là, quoi.
Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Je ne sais pas quelle est la suite pour vous. Est-ce que vous imaginez reconstruire une maison au même endroit?
Eh ben le problème, il y a l'aspect psychologique. Ça va être compliqué parce que moi, ça fait que 15 ans que j'habite au Porge. Il y a des gens, c'est toute leur vie, c'est des maisons de famille depuis plusieurs générations. Pour eux, ça va être encore plus terrible. Et puis comment reconstruire comme ça, comment arriver à se projeter. Pour le moment, c'est très très difficile. Et puis, on va être confronté aux assurances, à l'ignominie des assurances qui va nous parler de coefficient de vétusté et tout. Mais une vie, c'est pas un coefficient de vétusté.
Bien sûr, et on entend on entend votre émotion, Yves, parce qu'évidemment il y a le matériel, il y a toutes ces démarches qu'il va falloir entreprendre, et puis il y a l'affectif, il y a tout ce que vous aviez de souvenirs, bien sûr, dans cette maison. Est-ce que vous vous sentez suffisamment accompagné aujourd'hui?
Ah ben pour le moment c'est très très compliqué parce que bon, moi je suis revenu au village, mais j'ai bravé les interdictions parce que je voulais voir ma maison, mais il y a plein de gens qui n'ont toujours pas vu leur maison. Ils les ont vus sur les images, mais ils ont pas vu la désolation. Donc accompagné pour le moment par personne, quoi. Alors il y a un collectif qui est en train de se monter au port pour justement avoir des réponses à ces événements et puis pour essayer d'avoir une action commune, quoi.
Une action pour faire quoi?
Eh ben déjà pour demander des comptes. Il va falloir demander des comptes à l'État. Comment ça a pu avoir lieu? La chaîne de décision, parce qu'on a entendu quelques décisions qui nous semblent un peu aberrantes. Justement, on compte un peu sur vous pour aller interroger toutes ces décisions. Puisqu'il y a une décision très en amont, semble-t-il, qui ferait que les pompiers au sol ne sont pas intervenus parce qu'il fallait attendre les moyens aériens et que les moyens aériens ont mis 2 heures à venir. Si jamais c'est vrai, c'est dramatique parce que c'est 2 heures perdues. C'est peut-être les 2 heures qui auraient fait qu'il n'y aurait pas eu cette abomination.
Le maire le disait hier, effectivement, que les moyens avaient mis un tout petit peu de temps à arriver, que le village s'était retrouvé encerclé par les flammes.
Ah oui, oui. Et puis alors, l'avenue où moi j'habite, qui est une avenue qui a été particulièrement touchée, mais c'est pas le seul quartier du village qui a été touché, on comprend pas. Il y a des maisons qui sont au bord de la route et qui sont même pas entourées de bois et qui ont brûlé. On se dit que mais si elles avaient été défendues, elles auraient jamais brûlé.
Moi, il y a de la colère aujourd'hui parmi les habitants. Ah, oui. Il y a évidemment l'immense tristesse que vous avez, mais il y a aussi de la colère.
Ah oui, si vous allez dans le village, si vous reportez avant dans le village, vous verrez que la parole elle commence à gronder un peu. Il y a beaucoup de colère. On veut des réponses.
On veut des réponses.
Et on veut qu'on nous aide. Et puis on veut qu'on revoie plein de choses. Il y a eu les incendies de l'Andiras. Est-ce qu'on en a tenu compte? Est-ce qu'il y a eu des pare-feux?
On entend que vous voulez des réponses
de la forêt, quoi.
Vous attendez des réponses et qu'il y a donc ce collectif d'habitants, vous nous le révélez ce matin, ce collectif d'habitants qui se monte du côté du Porche. Merci infiniment pour votre témoignage, Yves Brugier. Regarde, et on prendra régulièrement, bien sûr, des nouvelles sur RMC des habitants sinistrés, parce qu'à la suite, il y a les démarches, il y a, vous le disiez, les galères des assurances qui vont évidemment être compliquées, et puis il y a ces recherches de réponses sur ce qui s'est passé. C'est exactement lorsque le feu a envahi la ville. Une dernière information qui vient de nous parvenir depuis la préfecture de Gironde. Le feu est toujours stabilisé ce matin après une nuit calme. Voilà, donc une situation relativement stable depuis hier. Merci à vous, il est 7h16.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, Zinedine Zidane, est-ce le bon choix pour les Bleus? L'ancien champion du monde qui sera intronisé aujourd'hui, sélectionneur des Bleus pour prendre la suite de Didier Deschamps. Éric Dimeco est avec nous dans un instant. Et puis vous réagissez évidemment au 32-16. A tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 7h19 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Ça n'est donc plus un secret pour personne. Et depuis un moment déjà, tout à l'heure à 11h, le président de la Fédération Française de Foot, Philippe Diallo, présentera le successeur de Didier Deschamps comme sélectionneur des Bleus. Et ce sera bien sûr Zinedine Zidane. Bonjour Éric Dimeco.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous ce matin. Que pense le consultant RMC Sport que vous êtes de ce choix de Zinedine Zidane? Est-ce que c'est le bon choix?
C'était le bon choix, on le saura plus tard. En tout cas, c'était le choix évident, c'était le choix que tout le monde attendait, et c'était surtout une obligation pratiquement pour le président de la Fédé. Imaginons un seul instant le poste vacant que le président de la Fédé le propose à quelqu'un d'autre qu'à Zinedine Zidane.
Une obligation, il y avait des noms que...
Ah ben,
Ouais. Ben, incontournable.
Ben non, c'était incontournable. C'est un non-événement en réalité, puisque Zinedine avait déclaré son amour à l'équipe de France, son intérêt pour l'entraîner un jour. Voilà, contrairement à ce que j'ai entendu de ça et là, puisque on s'amuse à comparer les entraîneurs qui ont, enfin les grands joueurs qui ont raté leur leur mission d'entraîneur national. On parlait de Platini, de Maradona, de Van Basten, mais Zinedine Zidane, il a été entraîneur de club, du plus grand club du monde, où il a gagné beaucoup
trois
de titres, trois Ligues des Champions de suite. C'est-à-dire, je pense que ce matin, si il avait pris un autre entraîneur que Zidane, on ferait des débats pour savoir si le président de la Fédé est devenu fou, parce que les prétendants au titre sont de bons entraîneurs, mais personne n'a le CV de Zizou, que ce soit en tant que joueur, voire même qu'entraîneur. Alors après, c'est pas un gage de réussite, c'est un poste particulier, c'est un poste exposé, il prendra des coups, Zizou, mais déjà, il avait pas peur de les prendre sur le terrain. Et je pense qu'il a pas peur de les prendre maintenant, mais c'était obligé. Enfin, et tout le monde a hâte de voir ce que ça va donner, quoi. C'est surtout ça, voilà.
Bien sûr, on a tous hâte de voir ce que ça va donner. Vous avez partagé quelques sélections ensemble en équipe de France.
Je l'ai vu arriver.
Et on a tous l'image d'un Zidane assez réservé, finalement pas forcément très bavard. Là, il va être confronté aux médias. Vous le disiez, il va être très exposé, il va prendre des coups. C'est un autre homme aujourd'hui, c'est être confronté à tout ça.
La première question, c'était est-ce que j'imaginais un jour Zidane, en ayant joué avec lui, un entraîneur? Je vais vous répondre non. Il y a d'autres joueurs, un garçon comme Didier Deschamps, avec qui j'ai beaucoup joué aussi, et qu'il faut remercier pour ce qu'il a fait en équipe de France. Et je vais même plus loin, il faut souhaiter à Zizou d'avoir le même palmarès que Didier, parce que Didier a fait quelque chose d'extraordinaire. Au contraire de Didier, je savais qu'un jour il serait entraîneur. Zizou, j'ai été étonné. Par contre, on se rend compte quand on passe au Real, on peut aller de partout derrière. Enfin, le Real, c'est le club le plus exposé du monde, où il y a une polémique par jour. Là, l'équipe de France, malgré tout, et Dieu sait qu'elle est exposée, et Dieu sait que c'est un autre métier que celui d'entraîneur de club, mais il n'aura pas des conférences de presse tous les jours ou tous les deux jours pour expliquer ce qui se passe dans son vestiaire, les mauvais matchs du dimanche. Bien sûr qu'il est armé avec ce qu'il a vécu en tant que joueur et en tant qu'entraîneur pour assumer tout ça.
Quels vont être ses premiers chantiers? Là, il reprend une équipe qui est évidemment très très prometteuse, hein, avec beaucoup de talent à l'intérieur. Quelles vont être ses priorités, ses premiers chantiers?
C'est de prendre ses marques. Enfin, je fais toujours un parallèle avec Didier, parce qu'on va le faire obligatoirement. Didier, quand il arrive en équipe de France, il n'a pas qu'une équipe à composer. Il a aussi une image à redorer de cette équipe de France qui avait beaucoup souffert sur les années précédentes. Là, Zizou, il arrive, il a déjà une Formule 1 dans les mains. Alors, moi, je pars du principe qu'il sait la conduire. Maintenant, il y a peut-être des réglages moteurs à faire. Hein. On fait un petit parallèle F1, mais il a constitué son staff, il va prendre ses marques. Mais moi, je regarde un peu de l'étranger, les gens qui sont fans de foot, qui ont regardé notre équipe de France avec les joueurs qui a pas réussi tout à fait sa Coupe du Monde, hein, puisque on espérait que ça gagne. Qui regarde les joueurs qui composent l'équipe de France et qui voient arriver Zidane. Mais moi, je suis de moitié italien, je m'imagine en Italie, ils sont pas capables de trouver un sélectionneur et des joueurs en ce moment, c'est un grand pays de football. Et Zizou est passé à la Juve, et donc il regarde d'un œil particulier. Donc il voit y arriver l'équipe de France avec les joueurs qu'on a, et il voit y arriver Zidane. Je le répète, c'est pas un gage de réussite. Sauf que n'importe quel entraîneur qui serait arrivé à la place de Zidane, ce n'aurait pas été un gage de réussite non plus. Voilà. Et on a quand même plus de chances de réussir quand on a réussi au Real. Alors on va me dire, il est passé après Ancelotti, il avait des grands joueurs et tout, oui, sauf que il avait récupéré lui aussi la première fois une équipe, ou même la deuxième, une équipe qui était en crise. Voilà, donc arrêtons de chercher les problèmes avant qu'ils arrivent, ne boudons pas notre plaisir, et bien sûr que Zidane sera jugé comme les autres sur les résultats.
Avec des premiers matchs et des premières échéances en septembre. Juste une dernière question, ça, Eric, sur le terrain, est-ce qu'il peut y avoir un style Zidane différent de ce qu'on a connu sous Deschamps?
Alors attention, Zizou, il est passé en Italie à la Juve lui aussi, et quand on voit ce qu'il a fait au Real, et c'était pragmatique, Zizou. Hein. Quand il gagne tous ces titres-là, il a mis le terrain très fort, alors avec des talents extraordinaires, mais ça partait pas dans tous les sens offensivement. Hein. Voilà, il fera en sorte que son équipe soit performante, forte, difficile à battre, et surtout qu'il gagne beaucoup. Moi, je pense qu'il a les outils pour ça. Mais après, est-ce que la mayonnaise va prendre? Ben voilà, rendez-vous au mois de septembre, et encore... J'espère qu'on va pas le juger sur les trois premiers matchs. On sait très bien que ça peut prendre un certain temps. Il a une échéance dans deux ans, le championnat d'Europe. Eh bien, on le jugera sur pièce à ce moment-là.
Eh ben, très bien. Les premiers rendez-vous en septembre contre la Turquie et contre la Belgique. Merci Eric Dimeco d'avoir été en direct avec nous ce matin. Puis on vous attend tous au 32-16. Est-ce que Zidane peut être l'homme de la situation? Vous ne manquerez rien d'ailleurs sur RMC hein, ce matin. 11h, émission spéciale pour suivre en direct la conférence de presse à Clairefontaine et l'intronisation de Zidane. Et puis à ce soir, l'after spécial de 20h à 23h, entièrement consacré à Zinedine Zidane. Il est 7h26 et dans un instant, c'est l'économie avec Manu Le Chypre.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h27, l'économie.
RMC.
Le chiffre du jour.
Le chiffre du jour, Manu Le Chypre. C'est 10%, c'est l'augmentation du prix du timbre-poste prévu en 2027.
Oui, les prix pour l'affranchissement des courriers et des colis augmenteront en moyenne de 6,7% au 1er janvier 2027. C'est ce qu'a annoncé hier le groupe La Poste, après déjà quand même une hausse de 7,4% en 2026. Alors, sachant que tous les affranchissements ne vont pas augmenter dans les mêmes proportions, la plus forte hausse, ce sera donc celle du timbre vert pour les envois du quotidien, quasiment 10%. Il passera de 1,52€ à 1,67€. Le prix d'une lettre recommandée de 20 grammes va augmenter, lui, de 6% à 6,47€. Les clients du service en ligne de timbre à imprimer chez soi, ça s'appelle Mon Timbre en Ligne, eux bénéficieront d'une remise de 4 centimes avec par exemple une lettre verte à 1,63€. Les augmentations seront plus contenues sur les colissimo, hein, 4% pour les colis envoyés vers la France métropolitaine et l'international. En revanche, les colis expédiés entre la métropole et l'outre-mer connaîtront une baisse de 5%.
Alors, ce sont quand même des grosses augmentations. Comment est-ce que La Poste les justifie?
Alors, par le coût de plus en plus élevé du service universel postal. Hein, le service universel postal, c'est celui qui garantit à tous les usagers un accès aux services postaux essentiels à un prix raisonnable, 6 jours sur 7 et sur l'ensemble du territoire. Alors que la chute du nombre de lettres transportées fait diminuer les recettes de La Poste, avec à la clé un déficit global qui coûte chaque année 1 milliard d'euros à l'État. Et d'ailleurs, pour finalement nous consoler un petit peu, La Poste nous dit que si on tient compte de l'évolution des comportements des clients de La Poste, c'est-à-dire que le fait qu'on va envoyer moins de lettres, etc., et peut-être un peu plus de colis, eh bien, le budget des ménages pour les services postaux, malgré ces augmentations, diminuera en 2027. Cette année, c'était 27€. En moyenne par famille et par an, ce serait plutôt 25€. L'année prochaine, ça augmente, mais on envoie moins de lettres. Donc on dépense moins.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Emmanuel Le Chypre pour l'économie. On se retrouve tout à l'heure, juste après le journal de 8h.
RMC, Apolline Matin.
C'est l'heure d'un nouveau journal avec Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. RMC est allé à la rencontre des pompiers mobilisés en Gironde. L'incendie, lui, n'est pas fixé mais stabilisé. Et les mauvaises conditions météo du jour inquiètent les secours. Une chaîne de solidarité se met en place pour accompagner les pompiers sur le terrain, des Français qui se mobilisent partout dans le pays pour apporter leur aide. Et un ballon d'or à la tête de l'équipe de France, Zinedine Zidane, officiellement présenté aujourd'hui par la FFF. C'est à vivre dès 11h. Sur RMC.
D'abord donc cet appel à la solidarité lancé par Emmanuel Macron.
Le chef de l'État est allé hier à la rencontre des pompiers en Gironde pour leur apporter son soutien et répéter que les semaines à venir seront dures. Il a donc adressé un message de mobilisation et de solidarité pour gagner cette bataille. L'incendie, lui, n'est toujours pas fixé, mais stabilisé. Les pompiers luttent depuis 6 nuits contre ce feu et notre envoyé spécial Lou Garnier les a suivis sur le terrain hier à Saint-Jean-d'Illac.
s'est emballé incessant de camions, d'avions et d'hélicoptères bombardiers d'eau partout, des troncs calcinés, des cendres à quelques dizaines de mètres, un épais panache de fumée. Les pompiers luttent toujours contre les flammes.
Là, vous avez un hélicoptère qui est en train de marquer la zone pour qu'on ait un avion qui fasse des largages.
Capitaine Wilfried Schneider.
L'objectif pour nous, il est clair, c'est stabiliser la situation pour éviter qu'on ait des foyers aussi actifs les jours prochains.
Après presque une semaine de lutte, tous ont les traits tirés. On ne lâche rien, martèle l'officier.
Il y a beaucoup de fatigue accumulée. Les personnels sont usés. C'est un chantier qu'on n'a jamais connu en France, un chantier qui fait plus de 40 000 hectares.
Contenir le feu pour protéger les habitations et une centrale photovoltaïque toute proche. Sur le terrain, des entreprises privées se mobilisent, elles aussi, pour aménager des pare-feux, explique le commandant Mathieu Jaumin.
Ce sont des bulldozers, ce sont des pelles mécaniques, ce sont des tracteurs qui viennent retirer le maximum de végétation. C'est un rempart à l'orée du bois.
Une zone vierge longue de 2 km qui, couplée à l'action des pompiers, doit permettre de ralentir le feu.
42 000 hectares brûlés en Gironde. Le feu n'a pas gagné de terrain ces dernières 24 heures. Justement, Jean-Wilfried Forquès, vous êtes notre envoyé spécial pour RMC. Vous êtes en direct avec nous ce matin de l'Esch-Cap-Ferré. Vous venez à l'instant d'assister au passage de relais des pompiers. Leur travail s'annonce une nouvelle fois compliqué aujourd'hui.
Oui, ça a été très compliqué toute la nuit, mais ils sont parvenus à combattre les fumerons au sol. Colonel, que s'est-il passé concrètement? Qu'avez-vous fait cette nuit?
Donc cette nuit, on a continué effectivement à traiter les lisières avec les travaux de forêt, les travaux de bulles qui ont continué à faire les lisières, et on a traité effectivement tous les fumerons à l'intérieur du massif nombreux.
Quelle est la tactique du jour?
Donc la tactique du jour, c'est de continuer à travailler lisière parce qu'on a des conditions qui vont fortement se dégrader à partir de cet après-midi et surtout qui vont encore plus se dégrader demain avec une hygrométrie qui va redevenir extrêmement basse et un vent qui va tourner à l'est et au sud-est et qui va encore nous inverser le sens du feu.
Et donc pour les pompiers ici, il s'agit de regarder, scruter la météo qui va donner une canicule très importante, notamment demain avec des températures autour de 42 degrés.
Jean-Wilfried Forquès en direct du PC Pompier de l'Esch-Cap-Ferré pour RMC. Face aux incendies, la solidarité s'organise. Les Français se mobilisent pour soutenir les pompiers matériels, dont ravitaillement. Et certains vont même jusqu'à parcourir des centaines de kilomètres pour prêter main forte. Notre correspondant RMC, Martin Lange, a pu échanger avec plusieurs de ses volontaires.
David est agriculteur en Charente. Après avoir vu les premières images de l'incendie, il n'a pas hésité une seconde.
J'ai dit allez hop, mon chauffeur était motivé, j'ai dit on part. La solidarité agricole a toujours existé, j'ai un tracteur, une citerne, j'ai toujours fait ça.
Depuis samedi soir, il se bat aux côtés des pompiers.
On ravitaille les camions pour des reprises de petits feux, des fumerolles qui traînent par-ci par-là. Quand on n'alimente pas les camions, on est en première ligne, on tape le feu comme on peut.
D'autres collectent des denrées ou des produits d'hygiène. Kevin a fait 600 km depuis le Maine-et-Loire pour les acheminer jusqu'en Gironde vendredi dernier.
On a tout mis en fait sous sac sous vide pour que ça puisse passer dans la voiture, mais vraiment jusqu'au plafond.
600 serviettes et 400 gels douches reçus comme une bénédiction à Montussan, à quelques kilomètres des flammes.
On a été accueillis les bras ouverts, ils étaient vraiment émus par la quantité, surtout qu'il y ait une mobilisation comme ça qui vienne de toute la France.
Autre initiative dans la Creuse, la ville d'Aubusson a décidé d'ouvrir son camping municipal aux vacanciers piégés par les flammes. Stéphane Ducourtiou, le maire.
On est situé à 300 kilomètres, donc un peu loin de tout, et on s'est posé la question, on comprend ce qu'on peut se rendre utile. On peut pas aller éteindre les incendies, bah pourquoi pas leur proposer de faire une halte en Creuse.
Une soixantaine de places sont actuellement disponibles gratuitement. Une solution de repli supplémentaire pour la préfecture de Gironde.
Et les assureurs prennent des mesures d'urgence. Le délai pour transmettre les déclarations de sinistrés est prolongé jusqu'au 31 août. Les personnes évacuées en Gironde, dans le Var, dans les Landes, pourront obtenir le remboursement de leurs frais de relogement pour une période maximale de 3 semaines. Autre annonce, cette fois-ci du gouvernement, l'activation du chômage partiel pour les 13 000 entreprises sommées d'évacuer en Gironde. Toutes les manifestations sportives et culturelles interdites en Gironde, ainsi que les activités nautiques sur le plan d'eau de Cazaux-Sanguinet. Les touristes, eux, sont invités à reporter ou à annuler leurs vacances dans le département. Une consigne de la préfecture qui fait réagir les professionnels du tourisme, notamment Franck Chaumet, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie en Gironde.
Moi, je comprends tout à fait son annonce. Elle veut garder les routes libérées pour les sapeurs-pompiers, pour la sécurité. Mais elle a oublié peut-être dans sa communication de dire on ne souhaite pas que les gens viennent en Gironde pour l'instant et sur les lieux impactés. Il y a aussi toute la côte atlantique côté médocaine. Il y a aussi le côté du bassin d'Arcachon. Il y a le Libournais. Il y a toute la route des châteaux. tout cela n'ont pas été impactés. Là, aujourd'hui, ils ont annulation sur annulation, donc j'ai bien peur que la saison soit catastrophique.
Et on attend vous aussi vos témoignages si vous êtes entrepreneur, si vous faites partie de ces secteurs impactés, mis à l'arrêt par ces évacuations, par ces incendies, les hôtels, les restos, le BTP, tous les secteurs, toutes les entreprises qui sont dans la zone. On vous attend 32-16, vos messages sur le 06-12-424-424 sur WhatsApp et on en parle juste après le journal avec l'invité d'RMC ce matin, c'est le ministre de l'Industrie Sébastien Martin.
Et un pompier volontaire de 38 ans a perdu la vie alors qu'il participait à un dispositif préventif contre les feux de forêt. Il a fait une sortie de route dans les Bouches-du-Rhône. 4 autres pompiers ont été blessés dans le Var alors qu'ils se rendaient sur l'incendie dans le secteur de Cotignac. Leur véhicule s'est retourné et a fini dans un ravin. Cet incendie n'est toujours pas fixé.
Il est 7h37 sur RMC. C'est le début de l'ère Zidane chez les Bleus aujourd'hui.
Le champion du monde 98 va prendre les rênes de l'équipe de France et succéder à Didier Deschamps. Annonce officielle à 11h pour le plus grand bonheur des supporters, Diane Carlotti.
Quand on est français et qu'on aime le football comme Steve, Zidane, c'est...
C'est comme Michael Jackson. Encore aujourd'hui, on a qui l'écoute, alors qu'il est mort il y a déjà très longtemps. C'est la plus grande légende pour moi, plus que Platini, mais c'est un autre niveau.
Le Marseillais, champion du monde et ballon d'or en 1998, a marqué des générations. Calvin et Mohamed ont moins de 25 ans et ne l'ont donc jamais vu jouer.
C'est l'idole de tout le monde en France. Il n'y a pas une personne qui peut mal parler de Zizou.
Nos parents nous en parlent, nos grands-parents nous en parlent. On nous raconte ce que Zidane a fait. On a pu voir aussi, grâce aux archives, ce qu'il a pu accomplir. Du coup, ça nous a transmis cette admiration envers Zidane.
Pour les anciens, Zizou, c'est le doublé face au Brésil en Coupe du Monde 98 et le coup de tête en finale face à l'Italie en 2006. Mais pour Dorian et les footballeurs d'aujourd'hui...
Je pense au Real, ce qu'il a fait comme entraîneur. Et avec 3 Ligues des Champions d'affilée, je pense que c'est la bonne affaire.
Un avis partagé par le perchiste Renaud Lavillény, autre légende du sport français.
Tout le monde en rêvait et on l'a. Un champion du monde qui remplace un autre champion du monde. Sur le papier, c'est cool quoi. On a tous, je pense, hâte de voir ce que ça va donner.
Reste à savoir si Zinedine Zidane fera mieux que son ex-coéquipier Didier Deschamps à la tête des Bleus.
Et vous ne raterez rien de cette annonce avec une émission spéciale dès 11h sur RMC et ce soir de 20h à 23h, l'after foot entièrement consacré à Zinedine Zidane.
Le quintet, c'est sur l'hippodrome de Compiègne aujourd'hui à 18h30.
Le pronostic de la Dream Team, leur favori le 2, leur outsider et le 3.
C'était le journal de Clément Gouitz sur RMC, il est 7h39.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et je le disais, on va s'arrêter sur les conséquences économiques de ces incendies et de ces évacuations massives. Bonjour Sébastien Martin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en plateau ce matin. Vous êtes le ministre chargé de l'industrie. Il y a tout ce tissu industriel, bien sûr, qui est présent dans cette zone, avec des sites d'ailleurs sensibles. On en parlera. Et puis il y a toutes ces entreprises contraintes de fermer, des salariés qui ne peuvent pas aller travailler, le tourisme qui est à l'arrêt, le BTP. Le gouvernement a déjà annoncé des mesures de chômage partiel. On en parle dans un instant et on attend tous vos témoignages au 32-16. A tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Bienvenue sur RMC, si vous nous rejoignez, il est 7h43, les incendies ont aussi des conséquences économiques, ce sont des milliers d'entreprises qui sont ce matin en danger. Bonjour Sébastien Martin.
Bonjour.
Vous êtes le ministre de l'Industrie, merci d'être avec nous. Vous avez participé hier à une réunion de crise à Bercy avec les acteurs économiques. Bercy qui chiffre à 13 000 le nombre d'entreprises situées dans les zones évacuées en Gironde et qui donc ne peuvent plus avoir d'activité aujourd'hui. Que va faire l'État pour limiter la casse ?
Je permettrais déjà avant d'avoir une pensée parce qu'hier soir un pompier est décédé dans les Bouches-du-Rhône. Et tout ça, quand même, on rappelle qu'on est face à un incendie majeur. Et je pense qu'il est important d'avoir une pensée pour le pompier qui est décédé hier et après 2 autres décès la semaine dernière en Gironde. Face à ce combat, les soldats du feu sont en première ligne et je voulais le dire. Hier, effectivement, autour de Roland Lescure, nous avons réuni d'abord le matin une première réunion avec les entreprises locales et puis ensuite, en début d'après-midi, une réunion avec l'ensemble des fédérations. Vous avez vu que ça a amené le ministre à faire un certain nombre d'annonces, notamment en matière de prise en charge par les assureurs, cette fois-ci des questions de relogement et des questions de conditions dans lesquelles on peut déposer les dossiers de sinistre. Puis l'après-midi, il s'agissait beaucoup d'écouter les préoccupations du monde économique. Le monde économique aujourd'hui, d'abord, est extrêmement calme et mobilisé, je tiens à le préciser, et veut avoir plus d'explications sur comment on a recours au chômage partiel, quel est le numéro, vers qui s'adresser. On est dans des conditions très pratico-pratiques pour le moment. Et d'ailleurs, d'ici cette fin de semaine, on doit se revoir pour essayer de répondre à
certaines questions. Alors, qu'est-ce que vous dites ce matin à ces chefs d'entreprise, peut-être ces artisans qui sont dans cette zone-là, qui ne peuvent pas avoir d'activité? Il y a le tourisme qui est complètement à l'arrêt. Il y a forcément les activités comme le BTP. Qu'est-ce que vous leur dites? Vers qui se tourner si ils ont leur entreprise complètement bloquée parce que les salariés ne peuvent pas venir ou parce que tout simplement la zone est interdite?
En Gironde, la Chambre de commerce a mis en place un numéro unique que les entreprises peuvent contacter pour pouvoir avoir des renseignements. Il y a aussi auprès des URSSAF un numéro unique qui est en ligne, tout est sur le site de la préfecture de Gironde, qui vous permet d'avoir les réponses à toutes les questions que vous vous posez. Je leur dis que l'État sera à leur côté, que pour le moment nous examinons l'ensemble des demandes qui peuvent remonter sur le terrain, que depuis ce week-end en fait, la préfète a indiqué que les salariés ne pouvaient pas retourner dans les communes dans lesquelles il a été demandé d'évacuer, et que la situation elle est évaluée au jour le jour, bien évidemment en se disant que on souhaite que cela dure le moins longtemps possible, mais la priorité pour que cela dure le moins longtemps, c'est de se fixer sur les conditions pour calmer cet incendie et l'arrêter le plus vite possible.
Donc toutes ces entreprises auront accès au chômage partiel qui
tout
leur
à fait
sera,
ça a été tout à fait annoncé. Le chômage partiel, c'est au niveau du SMIC, en fait, l'État prend en charge 100% du salaire et jusqu'à 60% quand vous montez dans les grilles de rémunération. Et là, c'est un partage entre l'entreprise et l'État.
Est-ce qu'on a une idée du nombre de salariés qui pourraient être concernés par ce chômage partiel et combien ça peut coûter à l'État?
Écoutez, on dit qu'aujourd'hui, il y a 130 000 salariés qui peuvent plus retourner travailler. Auquel il faut qu'on regarde, parce que il y a aussi un certain nombre de, par exemple, de salariés qui sont dans des entreprises qui ne sont pas forcément dans la zone qui est fermée, mais qui ont été délogés, qui sont dans des conditions, en gros, soit ils dorment encore dans un gymnase, ou ont dû partir à plusieurs kilomètres dans de la famille. Est-ce qu'ils peuvent retourner chez eux? Il y a la question aussi que se pose un certain nombre d'entreprises. Est-ce que je peux mettre mes salariés au travail parce qu'on a un niveau de pollution de l'air qui est supérieur à ce qu'il était? Donc, il y a un certain nombre de questions qu'il faut qu'on soulève. Et c'est l'objet de la réunion de jeudi, donc c'est après-demain, jeudi, au cours de laquelle on pourra apporter des réponses encore plus précises aux entreprises.
Est-ce que ça va suffire? L'UDP, qui représente beaucoup d'artisans, demande à pouvoir obtenir des reports de paiement de différentes charges.
On est tout à fait ouvert, bien sûr, on est tout à fait ouvert à des mesures qu'on va appeler de trésorerie d'une manière générale pour permettre des reports de charges, des reports de cotisations. Tout ça, il faut se rapprocher des services, des directions départementales de l'emploi et du travail, les DETS qui sont présentes sur le territoire. Je pense que ce qui est urgent pour le moment, c'est aussi de ne pas engorger dans les premiers jours ces services-là et services de l'État qui sont focalisés sur la coordination de la lutte contre le feu. Mais bien évidemment, nos services en département, les services à Bercy pour les fédérations professionnelles sont à la disposition des organisations professionnelles pour travailler ces questions-là.
Vous avez rencontré les assureurs, vous le disiez hier, est-ce qu'ils vont jouer le jeu?
Écoutez, pour l'instant déjà, ils ont joué le jeu sur les particuliers, puisqu'ils ont annoncé... Sur le relogement et sur les délais pour déclarer les sinistres. Normalement, vous avez 5 jours pour déclarer un sinistre. Là, les assureurs ont indiqué que vous aviez jusqu'au 31 août pour déclarer un sinistre. Si vous êtes, par exemple, une des victimes des 200 et quelques maisons, d'un peu plus de 200 maisons, pardon, qui ont été touchées par l'incendie, vous avez jusqu'au 31 août, et c'est bien légitime, vous n'avez plus rien pour pouvoir faire vos dépôts.
Et pour par les ailleurs, entreprises qui ont des fortes pertes en ce moment, qui ont dû fermer boutique,
Chaque entreprise doit regarder ce qui est prévu dans son contrat, se rapprocher de son assureur. Nous, de la même manière, à Bercy, nous allons travailler avec les assureurs pour voir s'il n'y a pas moyen, quand même, de regarder exactement, au regard de la situation exceptionnelle, quelles sont les conditions exceptionnelles que les assureurs pourraient apporter.
Il faut s'attendre à ce qu'il y ait de la casse parmi ces entreprises, des liquidations en cascade dans les mois qui viennent.
Je ne sais pas. Moi, je ne vais pas... Vous savez, on a une situation qui est déjà suffisamment difficile. On ne va pas rajouter de la catastrophe à la catastrophe. Forcément, bien sûr que c'est le risque. Quand vous avez des entreprises qui, en pleine saison touristique, attendent énormément de l'afflux de touristes, que vous avez les campings qui ont évacué 40 000 personnes, des campings ont été évacués en plein cœur de la saison. C'est pour ça que les mesures de chômage partiel sont importantes, parce que ça vous enlève quand même toutes les charges salariales, mais ça ne vous fait pas rentrer d'argent. Il faudra qu'on regarde les choses calmement, posément, mais pour le moment, on répond à la crise.
Sébastien Martin, je voudrais qu'on dise un mot d'un autre dossier que vous suivez de très près à Bercy, c'est celui de Fibre Excellence, le dernier fabricant de pâte à papier en France, 670 salariés. Hier, le tribunal de commerce a rejeté l'unique offre de reprise qui avait été présentée par Mathieu Pigas, mais dit examiner une offre de dernière minute qui pourrait sauver l'un des deux sites, celui de Saint-Gaudens. Est-ce qu'il y a espoir ce matin? Est-ce que cette offre vous paraît sérieuse, crédible?
D'abord, elle émane d'un industriel, un vrai, qui aura l'occasion, je pense, de s'exprimer. Donc, c'est pas à moi de le faire.
On sait pas qui encore a déposé cette offre.
On sait l'offre.
Vous
elle
savez,
a,
mais
si,
vous n'êtes pas...
si vous voulez, vous, il suffit de vous rendre sur le site du tribunal des affaires économiques. Et je pense que l'identité de ce porteur de projet est un grand industriel français que je tiens à saluer d'ailleurs parce que en France, il a fait énormément d'investissements ces dernières années. Il y a une réunion, j'ai convoqué une réunion à l'issue de cette émission en fin de matinée entre les services du Conseil régional d'Occitanie parce que c'est le Conseil régional d'Occitanie qui a eu les contacts avec cet industriel, les équipes de Bercy, pour voir comment on peut consolider cette offre. Moi, je veux dire que...
Est-ce que l'État peut mettre au pot ?
L'État peut accompagner une offre sérieuse. Je le dis d'ailleurs parce que j'ai entendu beaucoup de choses sur l'offre de M. Pigas, comme quoi l'État... Enfin, ça fait des mois que l'État a indiqué à tout le monde les conditions d'accompagnement. Sur le prix de l'électricité, plus 20%. Sur la hausse en fourniture de bois de la part de l'ONF, plus 50%. Sur l'accompagnement au quota carbone européen également. Monsieur Pigas, il a regardé à côté, il n'a pas voulu prendre cette réponse-là. Et à la fin, il s'étonne que son offre soit irrecevable.
Donc
et maintenant,
ça, c'est
on va regarder devant. On va regarder devant.
Il y a encore des emplois à sauver.
Il y a encore des emplois à sauver. Et je peux vous dire qu'on va se battre pour sauver ces emplois.
Merci. Merci d'être venu ce matin. Sébastien Martin,
merci.
Ministre de l'Industrie. Ce matin sur RMC. Il est 7h51 et dans un instant, c'est le portrait du jour avec Victor Pourchet.
Un commercial judoka parmi les héros qui ont stoppé un agresseur au couteau à Paris hier.
A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h53, vous êtes bien sur RMC et sur RMC Story. Le portrait du jour avec Victor Pourchet. On revient sur cette attaque au couteau hier dans le 17e arrondissement de Paris. L'assaillant a été arrêté en partie grâce à un certain Mohamed Ali.
Pas boxeur, mais sauveur. Mohamed Ali Bouadjar, c'est un jeune commercial de 26 ans. Hier matin, il va de boutique en boutique pour faire ses ventes. Mais quand il sort d'un supermarché près de la porte de Clichy, des cris, un mouvement de foule, ses yeux s'arrêtent sur un homme en jogging clair. Il a deux couteaux en main et attaque trois femmes, dont l'une est enceinte. À partir de ce moment-là, dit-il, dans ma tête, c'est devenu un ennemi. Alors, que fait-il? Eh bien, d'abord, c'est un jeune homme de son époque. Alors, il filme la scène avec son téléphone. Puis, sur ses vidéos, on l'entend crier, proposer aux autres autour de lui d'intervenir ensemble. Mohamed Ali, je vous l'ai dit, n'est pas boxeur, mais il est judoka depuis 15 ans. Ceinture noire, explique-t-il à nos confrères du Figaro. D'où le fait qu'en une balayette bien sentie, il met au sol le suspect.
Waouh. Et ça a aussi été un travail d'équipe. Hein.
Une improvisation collective, comme écrit le journal Le Parisien. Il y a cet homme de passage qui jette sa valise sur l'assaillant faisant tomber les couteaux. Il y a Issa Besseka, un serveur du coin, et sa collègue chez qui s'est réfugiée l'une des blessées. Keira, l'employée du resto d'à côté, qui raconte comment un autre serveur, celui de la brasserie qui fait l'angle, est venu avec une chaise pour bloquer l'homme au sol. Ou encore Jael Ahmed, l'ami de Mohamed Ali, notre commercial judoka. Et puis il y a tous ceux dont on ne connaît pas le nom mais qui ont agi et qui ont sûrement évité un drame encore plus important. Les trois femmes blessées sont désormais hors de danger.
Ouais, et donc, les héros du quotidien dans la rue, et notamment donc ce Mohamed Ali Bouadjar qu'on voulait saluer ce matin. Merci Victor. 7h55 et on part chez vous, dans vos villes.
RMC.
Dans vos villes.
On continue notre tour de France avec les reporters RMC partout sur le territoire. On continue d'aller à la rencontre des maires qui ont été élus ou réélus au mois de mars. Et aujourd'hui, on se transporte en 2030 pour les JO d'hiver que la France va accueillir dans les Alpes. Nous sommes dans la commune de Saint-Jean-de-Sixt en Haute-Savoie qui va être au cœur de l'organisation. Ce village de 1700 habitants va devenir le centre du monde sportif. Les biathlètes et skieurs de fond, ils seront logés dans un tout nouveau village olympique. Et c'est Romain Cluzel qui est allé à la rencontre du maire Yannick Defresne.
Au centre des attentions du maire de Saint-Jean-de-Sixt, un hameau en haut d'une petite route au milieu des montagnes. Là, on trouve une ancienne colonie de vacances désormais à l'abandon.
Dans ce site, c'est assez propice
à Cers, le village olympique.
Le maire de la commune, Yannick Desfraines, nous présente les lieux. En février 2030, près de 900 personnes vont s'installer ici. Des athlètes et leurs équipes venues du monde entier pour participer aux épreuves de ski de fond et de biathlon des Jeux Olympiques dans les stations voisines de la Clusaz et du Grand Bornand.
Ça va être quelque chose qui va être extraordinaire. C'est des sports qui résonnent, qui prennent aux tripes. C'est des sports qui sont pratiqués à l'école. On a des jeunes biathlètes aussi qui vivent à Saint-Jean, qui sont sur les clubs de la Clusaz ou de Grand Bornand. C'est évident que les JO sont un accélérateur et je mesure la chance, c'est d'avoir cet événement JO dans une mandature.
Un accélérateur parce que le maire, pour son premier mandat, ne veut pas passer à côté de l'opportunité pour sa commune de 1700 habitants. Les JO, cela signifie des investissements et des travaux qui auraient été inenvisageables en temps normal.
Là, on construit telle activité, on construit tel service. Voilà ce qui va nous rester. Un an après les JO, on ne veut pas se retrouver et dire « Bon, ok, la fête est passée et on fait quoi ?»
Alors Yannick Desfraines multiplie les échanges avec les organisateurs des JO pour que le village olympique soit ensuite utile aux habitants. Il plaide notamment pour installer un gymnase et une école. C'est l'une des demandes des habitants de Saint-Jean-de-Sixte, pour l'instant partagée à l'idée d'accueillir les Jeux. C'est le cas de Flore qui travaille dans le secteur du tourisme.
C'est une bonne nouvelle puisque du coup ça crée pas mal d'emplois. Ça va ramener quand même beaucoup de vacances. Ça va nous ouvrir sur le monde. Après, c'est vrai qu'on stresse aussi un peu en tant qu'habitant parce qu'on se dit comment on va faire pour circuler. Est-ce que ça va être bien préparé? Est-ce qu'au niveau des logements, on va en avoir assez? Ça reste quand même encore assez flou pour les JO.
Le maire Yannick Desfraines entend ces interrogations et lui-même a d'autres inquiétudes parce que le temps presse.
Il ne faut pas penser qu'il y ait des constructions avant le printemps prochain. Donc c'est vrai que ça va créer aussi un peu de stress parce que le calendrier va se réduire. La livraison des ouvrages olympiques, c'est septembre 2029. Ça laisse 2 ans. Voilà, on est une toute petite commune et de devoir accueillir, c'est une pression effectivement assez importante. Ça veut dire que le village va devoir se dimensionner.
Se dimensionner pour accueillir un événement mondial et profiter au mieux de ces 2 semaines de compétition. Maxime, le boulanger, s'y voit déjà.
Ça sera positif et on va faire des beaux JO ici dans une belle région. Allons-y et c'est parti pour 2030.
Un reportage signé Romain Cluzel en Haute-Savoie pour RMC. Allez, dans un instant, la météo, la chaleur revient et puis le journal de 8h, on va bien sûr retourner en Gironde où la nuit a été calme sur le front des incendies. Nouvelle encourageante ce matin. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Merci de démarrer la journée avec nous, il est 8h sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal avec Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Il est toujours stabilisé ce matin. L'incendie en Gironde n'a pas progressé cette nuit, annonce la préfecture, mais les fortes chaleurs qui arrivent font craindre le pire pendant que les habitants évacués sont sous le choc. Des photos qui leur parviennent de leur commune complètement calcinée. Des feux qui soulèvent la question du financement des équipes de pompiers. Les départements, vous l'entendrez, estiment que leur participation est trop élevée. Et puis le grand retour de Zizou chez les Bleus, 20 ans après avoir rangé le maillot, Zinedine Zidane revient sur le banc comme sélectionneur. Ce sera officialisé ce matin en conférence de presse.
La nuit a été calme en Gironde, le méga-feu est toujours stabilisé ce matin.
Des nouvelles relativement rassurantes de la préfecture de Gironde sur cet incendie qui a ravagé 42 000 hectares en moins d'une semaine autour du bassin d'Arcachon. Des villes méconnaissables, des paysages complètement calcinés comme dans la commune du Porge où 183 maisons ont été détruites et où Inès Zegloul s'est rendue pour RMC.
On tournera à gauche. Là, on est sur l'avenue du bassin d'Arcachon et là, il n'y a plus rien, quoi. Vous allez le voir. Hein. Je suis Monsieur Legrand, adjoint à la mairie et en charge de l'entretien de la voirie et des réseaux.
On est sur une route en ligne droite. On roule quand même depuis quelques minutes. C'est combien de kilomètres de maisons brûlées là?
Là, il y a 4,5 km, rien que sur cette rue. En gros, un quart de la population qui est presque tout perdu, quoi. Je n'ai pas de mots. C'est pas, on dirait que la guerre est passée, quoi, en gros.
Cette maison, par exemple, située au numéro 89, il ne reste qu'une carcasse. On dirait que le toit a explosé. Le squelette de l'électroménager jonche le sol. Cette maison, elle appartient à Frédéric et Anne-Claire. Ils n'ont pas encore pu revenir ici, alors ils nous ont demandé de leur montrer des photos.
Quand vous voyez ces images, ça vous... Je vous entends souffler, c'est...
Il n'y a plus rien à faire, quoi. C'est bien là qu'on a tout construit, c'est bien là qu'on a été heureux, c'est bien là qu'on a vécu, qu'on pensait vivre encore longtemps. C'est un passé, c'est des meubles, c'est des photos, c'est des affaires que nos parents nous ont léguées.
C'est vos tripes, quoi, qui partent. Hein.
C'est toute une vie.
Nous, on n'est pas retourné au Porge. On ne sait pas en fait ce que ça va nous faire d'y aller. Mmh. Est-ce qu'on va pouvoir y revivre psychologiquement? Est-ce que ça va être viable?
À partir de maintenant, vous allez vivre au jour le jour jusqu'à... Ouais,
de toute façon, on n'a pas le choix là. Sidération.
Le reportage RMC d'Inès Zeglou. Le gouvernement a décidé d'allonger jusqu'au 31 août le délai pour déclarer un sinistre et les assureurs prendront en charge les frais de relogement des personnes évacuées. On le disait donc, il y a du mieux ce matin. La surface brûlée n'a pas évolué, indique la préfecture de Gironde, mais ce répit sera peut-être de courte durée. Les autorités restent particulièrement vigilantes face à la météo, Charlène Villemer, à cause de cette nouvelle vague de chaleur qui fait craindre de nouveaux départs de feu.
Et oui, Météo France va placer la Gironde en vigilance jaune d'ici la mi-journée. Vigilance qui pourrait évoluer d'ici ce soir vers l'orange. Cet après-midi déjà, les températures atteindront les 36 degrés à Marcheprime près de Bordeaux et jusqu'à 41 degrés ailleurs dans le département. Autre grosse difficulté, eh bien la nuit prochaine, les températures ne vont pas baisser, ça va rester élevé. 17 à 19 degrés. Le pic de chaleur, lui, il est attendu dès demain. Le thermomètre va prendre encore 2-3 degrés supplémentaires. Il faudra notamment 38 degrés près de Bordeaux et jusqu'à 41 ailleurs dans le département. Autre difficulté, ce vent girouette très changeant, il va continuer de tourner jusqu'à demain. Ce vent qui joue un rôle crucial dans le combat acharné des pompiers contre les flammes. Du mieux à venir, eh bien, des orages sont attendus dans le secteur d'ici demain soir. Orages qui devraient apporter donc un peu de fraîcheur.
Une précision de Charlène Villemer, un peu de fraîcheur, on l'espère, pour aider les pompiers. Ils sont près de 2800 toujours mobilisés en Gironde, dans le département voisin des Landes. L'incendie est fixé, a annoncé hier Emmanuel Macron en déplacement dans la région. Feu contenu aussi dans le Var où 4 pompiers ont été légèrement blessés dans un accident de la route. Un autre accident dans les Bouches-du-Rhône dans lequel est mort le caporal Laurent Manson, un sapeur-pompier volontaire de 38 ans qui partait mettre du carburant dans son camion-citerne lorsqu'il a fait une sortie de route. Les circonstances de l'accident restent encore à déterminer.
Et une interrogation commence à monter. Les pompiers manquent-ils de moyens?
C'est en tout cas ce que déplore l'Association des départements de France qui appelle à repenser, à revoir le système de financement des SDIS, les services départementaux d'incendie et de secours financés à hauteur de 60% par les départements qui alertent donc sur un effort trop grand, Léonie Guilbeault.
Oui, impossible pour les collectivités locales d'investir davantage dans les services départementaux d'incendie et de secours, selon François Sauvadet, président de Département de France.
On est actuellement asphyxié par les charges qui nous sont imposées par le gouvernement. Les départements français, aujourd'hui, financent pratiquement 60% du risque de sécurité civile. On ne peut plus faire face au bout du système.
Au moment où les feux de forêt se multiplient, il faut trouver d'autres sources de financement. Par exemple, augmenter la taxe sur les compagnies d'assurance, idée que défend Olivier Richefou, président du conseil départemental de la Mayenne.
Quand on sauve des vies humaines, quand on sauve des bâtiments, quand on sauve des véhicules, c'est les dépenses en moins pour les assurances. Et donc que les assureurs contribuent à permettre aux pompiers d'avoir des moyens plus importants, ce n'est que justice.
Autre piste, faire bénéficier les SDIS d'une partie de la taxe de séjour payée par les vacanciers.
Plus un département est touristique, plus il y a besoin de pompiers. Et donc qu'il y ait une part de contribution de ceux qui, en tant que touristes, viennent sur un lieu, ça a aussi du sens.
La création d'une taxe additionnelle sur le foncier bâti est également préconisée par Département de France.
Et je vous signale qu'en Gironde, les manifestations culturelles et sportives sont interdites jusqu'au 8 août, annonce de la préfecture. Et aucun train ne circulera aujourd'hui au sud de Bordeaux, sauf en direction de Toulouse et d'Agen.
Il est 8h07 sur RMC. SOS Racisme va déposer 8 plaintes contre des boîtes de nuit et des plages privées de la Côte d'Azur.
L'association a mené une série de testing le week-end dernier. Et le résultat est édifiant. Une boîte de nuit sur 3 est soupçonnée de délit de faciès. Pour les plages privées, c'est 1 sur 6, Philippine Boulet.
Sur la Côte d'Azur, des dizaines de jeunes militants de l'association, tous sur leur 31, se sont répartis en groupes selon leur couleur de peau. Au total, ils se sont présentés à l'entrée de 23 plages privées et 17 discothèques. Résultat, aucun refus frontal, mais selon Dominique Sopo, le président de SOS Racisme, les jeunes racisés restent confrontés à des discriminations.
Sur les plages privées, placent les personnes dans un lieu beaucoup moins favorable pour des boîtes de nuit testées. On pratiquait une discrimination, soit en expliquant que la boîte de nuit était pleine, ce qui était faux. Ou alors, plus subtil, ce groupe de personnes noires à qui on dit qu'il faut qu'elles dépensent 200 euros pour entrer.
L'association avait mené le même genre de testing il y a 2 ans et sur le terrain, Dominique Sopo le déplore, rien ne change.
Nous aimerions que les pouvoirs publics soient davantage au rendez-vous plutôt que de faire preuve d'un manque de fermeté face à ce fléau.
L'association entend déposer 4 plaintes contre des plages privées et 4 autres contre des discothèques.
Philippine Boulet, 2 nouvelles plaintes déposées contre Patrick Bruel, plainte pour viol et agression sexuelle déposée ces 2 dernières semaines pour des faits a priori prescrits. Ce sont désormais au moins 31 plaintes qui visent le chanteur déjà mis en examen.
À partir de l'année prochaine, envoyer une lettre ou un colis va vous coûter plus cher.
Plus 6,73% de hausse en moyenne dès janvier, annonce La Poste, qui entend compenser la baisse du nombre de courriers envoyés. C'est d'ailleurs la lettre verte qui sera la plus touchée, plus 10% sur le prix du timbre. Ça fait 15 centimes de plus. Les envois sont effectivement moins nombreux, Alexandre Thibault, mais cela va décevoir ces Français très attachés à la lettre papier.
Marion sort du bureau de poste avec un carnet de timbre en main.
On est très carte postale dans la famille, donc je pense que les derniers courriers qu'on enverra, ce sont des cartes postales.
Elle accompagne sa fille de 12 ans, Thaïs, qui poste une lettre.
Ça fait toujours chaud au cœur quand on en reçoit. Et je pense que ça fait un bon souvenir, surtout quand on est enfant. Ça nous permet d'être autonome et de ne pas avoir à demander un téléphone. Ou...
Prendre le temps d'écrire un courrier, Claïs en envoie très régulièrement.
Là, j'ai envoyé 8 lettres d'un coup.
À sa famille en Nouvelle-Calédonie, cette nouvelle hausse de 15 centimes.
Quand on achète beaucoup de timbres, ça dissuade un petit peu d'envoyer des lettres vu le prix du timbre. Bon, c'est toujours pas excessif, mais ça donne de moins en moins envie. Puis même si j'enverrais moins de lettres, je continuerai d'en envoyer, je pense.
La Poste justifie cette nouvelle augmentation par la baisse du nombre de lettres transportées. Mais Guy pense même que dans quelques années, il n'y aura presque plus de courrier.
Ça va devenir rare, précieux, le fait que la personne prenne du temps, se déplace, fasse un effort pour écrire une note qui est personnelle.
Si rare, si précieux qu'il faut le préserver, selon cette autre étudiante.
Est-ce qu'il faudrait pas faire l'inverse et baisser le prix du timbre pour justement inciter les gens à de plus en plus envoyer de lettres.
D'ici 2030, La Poste prévoit de distribuer 15 milliards de lettres de moins qu'en 2018.
Des mois, des années de rumeurs et dans quelques heures l'officialisation. Zinedine Zidane, la légende qui est de retour. C'est son nom qui doit être dévoilé en conférence de presse ce matin par la Fédération Française de Football pour devenir le nouveau sélectionneur de l'équipe de France. François Pinet, rédacteur en chef football chez RMC Sport. Vous êtes en direct avec nous, François. Après 14 ans de Didier Deschamps, on doit s'attendre à une petite révolution.
Oui, sans être une rupture totale avec les années Deschamps, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour l'équipe de France ce matin. Depuis 5 ans et son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane s'est éloigné des terrains. Il a refusé de nombreuses sollicitations pour attendre ce moment, mais on le sait, ça fait plusieurs mois qu'il travaille à la constitution de son staff, un staff qui devrait être conséquent, près de 25 personnes, avec cette volonté de s'entourer de ceux qu'il connaît par cœur, à commencer par son adjoint de toujours, David Bettoni, qu'il a accompagné lors de ses succès au Real Madrid. Même si tout n'a pas filtré, on retrouvera sans doute Grégory Dupont, préparateur physique de renom, lui aussi passé par le Real, et d'anciens coéquipiers de France 98 comme Fabien Barthez ou encore Bernard Diomède. On espère en savoir plus aussi tout à l'heure sur l'idée qu'il se fait de l'équipe de France et sur l'identité de son futur capitaine. Comme son prédécesseur, il devrait s'appuyer grandement sur Kylian Mbappé, qui sort d'une Coupe du Monde réussie. Les deux hommes se connaissent et s'apprécient. Zidane qui pourra profiter de cet été pour réfléchir à sa première liste pour son premier grand rendez-vous sur le banc prévu le 25 septembre prochain. Ça sera en Turquie pour le début de la Ligue des Nations.
Merci François Pinet. Une annonce dont vous ne raterez rien sur RMC, qui bouscule ses programmes avec une émission spéciale à partir de 11h et ce soir de 20h à 23h, l'afterfoot entièrement consacré à Zizou.
Clara Gabillet pour le journal, et on reviendra bien sûr sur cette nomination de Zidane dans un instant. On va en parler avec Philippe Tournon, qui a été le chef de la presse pour l'équipe de France pendant 30 ans, qui a connu lui-même 9 sélectionneurs. Il a connu aussi Zinedine Zidane comme joueur. Ce sera dans un instant. D'abord, on part au 32-16. C'est Mathieu qui est avec nous. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Bienvenue Mathieu. Je vois que vous êtes chauffeur routier dans le Morbihan et vous êtes aussi pompier volontaire. Comment est-ce que vous regardez ce qui est en train de se passer en Gironde? Vous avez peut-être des collègues qui sont là-bas?
Ouais, j'ai un collègue là, de ma caserne, là, qui est parti là-bas cette semaine.
Vous avez des nouvelles de lui?
Ouais, il travaille pas mal. Ils ont du boulot, hein, c'est normal. Hein, c'est ce qu'on voit. Hein, donc moi, je sais que j'ai déjà fait des campagnes où j'étais dans renfort dans le sud aussi également. C'est des semaines intenses où on n'a pas énormément de travail, mais on va dire la solidarité autour nous fait oublier pas mal de choses comme la fatigue ou les choses comme ça. Parce que c'est vrai que la solidarité qui on va dire l'attraction qu'il y a tout autour de cette période-là est quand même montre que la solidarité est encore présente. Quoi.
Ouais, on voit que les gens se serrent les coudes. Il y a notamment les agriculteurs qui viennent en aide. Est-ce que vous vouliez nous dire ce matin au 32-16, c'est que il faut absolument régler cette histoire de moyens pour les pompiers. Il y a des choses qui manquent. Et dites-nous exactement finalement ce qui vous manque, ce que vous avez vous observé. Qu'est-ce qui fait défaut aujourd'hui au service de secours?
Moi, je pense que là, on est sur une période où il y a énormément de gens qui viennent aider. Des fois, limite, c'est frustrant pour nous. Des fois, moi, je vois ça d'un œil frustrant de voir autant de gens qui viennent nous aider, qui viennent nous donner un coup de main, qui sont là aujourd'hui pour nous aider. Et puis, après cette période-là, on va pas réussir à les faire basculer dans l'engagement volontaire chez les pompiers volontaires. Et on a besoin du monde là aujourd'hui, mais on a du besoin du monde toute l'année. Et on demande plus de moyens. C'est vrai que les gens demandent plus de moyens, plus de véhicules. Mais acheter des camions, mais un camion vide dans une caserne, ça restera un camion vide. Que s'il n'y a pas de personnel pour mettre autour, s'il n'y a pas de personnel pour mettre dedans, ça restera un camion vide et ça sera de l'achat inutile. Je pense qu'il faut qu'on augmente ça, qu'on
rende aussi peut-être cet engagement plus attractif. En tout cas, on entend votre appel ce matin à tous ces gens qui ont envie de se sentir utiles dans ces périodes-là. On a besoin de pompiers aussi volontaires tout au long de l'année. On a besoin de leur engagement. On a bien entendu votre appel. Merci Mathieu pour votre appel au 32-16 sur RMC. Il est 8h14.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, je vous le disais, c'est Philippe Tourdon qui est avec nous, l'ancien chef de presse de l'équipe de France, pour revenir sur la nomination de Zinedine Zidane qui est attendue ce matin. Est-ce l'homme de la situation? On verra ce qu'en pense Philippe Tourdon et ce que vous en pensez. Ça se passe au 32-16. À tout de suite sur RMC.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 8h17, vous êtes bien sur RMC et sur RMC Story. Notre invité a vu passer 9 sélectionneurs en équipe de France, a vécu 337 matchs des Bleus de 83 à 2018, 30 ans dans les couloirs et dans les vestiaires de l'équipe de France, et surtout pour organiser les conférences de presse comme chef de la presse de l'équipe de France. Bonjour Philippe Tournon.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous ce matin. Okay. C'est donc le grand jour pour Zidane qui va devenir tout à l'heure sélectionneur des Bleus. Pour vous, c'est l'homme de la situation, c'est le choix évident, nous disait Eric Dimeco tout à l'heure.
Oui, évident dans la mesure où il n'avait pas caché son goût pour l'équipe de France et il avait dit que son histoire avec les Bleus n'était pas terminée. Donc à partir du moment où on a, si j'ose dire, en magasin un personnage de cette dimension, c'est l'évidence, comme disait Eric, bien sûr.
Qu'est-ce que ça va changer pour l'équipe de France? C'est quoi le style Zidane?
Ça va changer pour l'équipe de France, je pense, pas grand-chose. Pour Zidane, ça va changer beaucoup. La fonction de sélectionneur n'est comparable à nulle autre fonction. On a connu des entraîneurs de clubs qui ont été flamboyants, qui ont eu des réussites magnifiques et qui n'ont pas réussi avec l'équipe de France. Donc c'est une fonction qui exige des attitudes, des disponibilités, des mots, des réactivités qui ne sont pas celles en club. En club, le technicien a son effectif sous la main tous les jours. Un petit incident dans le vestiaire, hop, le lendemain, le surlendemain, on en reparle, c'est classé. En équipe de France, il y a 3-4 rendez-vous d'une huitaine de jours par an. Et puis après, ça n'existe plus. Quand les joueurs arrivent, ils ont en tête le championnat, la Champions League. Il faut les mettre focus équipe de France en 24 heures. C'est très, très, très particulier.
Il y a des ingrédients particuliers. Et il y a son profil. C'est vrai qu'on voit Zidane souvent comme quelqu'un de très discret, de très pudique, de pas très bavard. Est-ce que dans le vestiaire, c'est un autre homme? Est-ce que depuis qu'il est devenu entraîneur du Real, c'est un autre homme?
Oui, bien sûr. Quand il est passé du joueur tête baissée, parlant tout bas, il fallait tendre l'oreille pour comprendre ce qu'il disait, son passage à la fonction d'entraîneur, ça a révélé un autre homme. Et personne ne va se donner le ridicule de prétendre qu'avec le joueur fantastique qui a été Zizou et le jeune entraîneur qui a offert 3 Champions League au Real Madrid pendant 3 années d'exercice, il n'est pas l'homme de la situation. Mais je le répète, j'attends avec beaucoup d'intérêt et de gourmandise sa capacité à enfiler ce costume de sélectionneur qui a réservé beaucoup de surprises. Rappelons-nous que Aimé Jacquet, qui n'avait bien sûr pas la stature mondiale d'Aimé Jacquet, est resté invaincu pendant 30 matchs et 2 saisons. Et il a été pris bille en tête par les médias parce que on jouait pas assez comme ci, on jouait trop comme ça, on n'appelait pas celui-ci, on n'appelait pas celui-là. Donc l'immense prestige, l'immense réputation de Zizou va être un blanc-seing dans un premier temps, mais il va devoir se confronter aux exigences du poste et des suivants.
Et on dit souvent, Philippe Tournon, qu'il y a 60 millions de sélectionneurs en France, et tout le monde aura son avis. Alors, il a quand même la chance de récupérer une équipe avec de très grands talents et une équipe qui, en plus, est très prometteuse pour les années qui viennent. Pour autant, il y a quand même un défi, hein, c'est qu'on sort de l'ère des champs, il va falloir faire au moins aussi bien.
Bien sûr, il y a un défi, il y a une exigence, et Zinedine va devoir trouver les bons mots, les bonnes attitudes, la disponibilité aussi. Est-ce qu'il est prêt à s'investir, à dire comme Didier que l'équipe de France est au-dessus de tout et qu'elle mérite tous les sacrifices? Je pense qu'il est plein de bonne volonté, mais ça suffit pas. Il faut avoir la capacité d'enfiler ce costume, et encore une fois, il est très très particulier.
Il y a un personnage évidemment qui sera très important, c'est Kylian Mbappé. On sait que Didier Deschamps avait tissé avec lui des liens très particuliers. On sait quelle est la relation entre Zidane et Mbappé.
Oui, enfin on la devine. Le Real Madrid, même s'ils n'y ont pas été en même temps, mais il y a une espèce de communion par le jeu, par une certaine idée du football. Et les récentes déclarations de Zinedine Zidane disant que il va définir bien sûr un cadre de jeu, mais qu'une fois dans les 30 derniers mètres, c'est la créativité, c'est le sens du but, c'est la complicité qui va faire la différence. Et là, avec les lascars qu'on a devant, Dembélé, Mbappé, Olysée, on est super bien armés, donc il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là, je crois pas.
On peut espérer voir revenir dans son staff des anciens champions du monde 98. On lit ça ici ou là.
On le dit beaucoup, mais les secrets sont bien gardés. Mais on répète avec tellement d'insistance que Barthez serait dans l'aventure, que Bernard Diomède aussi. Donc on peut penser que la fibre France 98 sera quand même bien présente dans ce nouveau staff.
Avec donc des premiers rendez-vous, on le disait tout à l'heure, contre la Turquie et contre la Belgique au mois de septembre. Merci beaucoup Philippe Tournon d'avoir été en direct ce matin avec nous sur RMC, ancien chef de la presse de l'équipe de France pendant 30 ans au sein des Bleus. Et vous ne manquerez rien sur RMC, puisque RMC bouscule ses programmes aujourd'hui. Émission spéciale à 11h pour suivre la conférence de presse qui donc formalisera la nomination de Zinedine Zidane. Et puis l'after dès 20h ce soir, 20h, 23h, l'after entièrement consacré à Zizou. Il est 8h23, l'économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Avec Emmanuel Le Chypre, on parle de MaPrimeRénov ce matin et les demandes d'aide qui ont chuté très fortement au cours des premiers mois de l'année.
Oui,
premiers mois de l'année.
Exactement. MaPrimeRénov, il faut le rappeler, c'est la principale aide publique à la rénovation énergétique des logements. Mais le dispositif créé en 2020 est devenu une véritable saga à multiples rebondissements qui finit par perdre les Français, puisque les demandes d'aide pour une rénovation globale ont été 4 fois moins nombreuses au premier semestre 2026 qu'au premier semestre 2025, nous dit l'Agence nationale de l'habitat qui distribue ces subventions. Alors, il y a d'abord eu un trop grand nombre de demandes, il y a eu des tentatives de fraude qui ont fait que le dispositif avait été suspendu à l'été 2025. Il était revenu en septembre, mais avec des aides divisées par deux et uniquement pour les ménages très modestes dans un premier temps. Puis il y avait eu l'absence de budget jusqu'en février qui avait gelé les dépôts de dossiers. Et puis après, il faut souvent plus d'un an pour que le dossier soit traité, sachant que les règles ne cessent d'évoluer, puisque en juin encore un, le gouvernement a réduit les travaux éligibles à MaPrimeRénov pour encourager les rénovations d'ampleur des logements plutôt que les travaux au coup par coup. Bref, c'est une saga qui n'en finit pas.
Oui, en fait, ce que vous lui dites, c'est que déposer son dossier MaPrimeRénov, c'est surtout un cauchemar.
Ah, c'est un cauchemar. Alors, c'est un dispositif qui est très français. Hein. Le principe fait consensus, mais la complexité est vite devenue délirante. Hein. Le périmètre des aides qui change tout le temps, les critères d'éligibilité qui sont quand même extrêmement compliqués. Ça dépend du revenu, ça dépend du type de logement, ça dépend du type de travaux. Les particuliers ne savent plus à quoi ils ont droit. Les artisans ont du mal à suivre. Les dossiers s'enlisent pendant des mois. Il faut avancer l'argent. Les fraudes se sont multipliées. Les prix ont augmenté. Bref, en plus, le bilan énergétique est incertain. C'est un véritable parcours du combattant. On pourra quand même se féliciter en disant que le cap des 500 000 logements qui ont bénéficié de cette aide depuis son lancement a été franchi. Aide qui vont de quelques milliers à quelques dizaines de milliers d'euros.
Très vite, les chiffres du jour, les prix de l'énergie.
Ouais, un peu de répit, un peu de répit. Bon, le gazole, ça monte toujours. Hein. On est au plus haut depuis le mois de mai. 2,21 € le litre, 35 centimes de plus en 3 semaines quand même. C'est plus raisonnable sur le samplon 95, 2,02 €, 16 centimes de hausse depuis début juillet. Le pétrole, bah, ça retombe après les déclarations apaisantes, entre guillemets, de Donald Trump. 87,3 $ le baril après un petit accès de fièvre à 100 $. Et puis le gaz, pareil, la pression retombe un peu à 57 € le mégawatt-heure après 63 la semaine dernière.
Merci Manu Le Chypre. Tout de suite Arnaud Demanche.
Je garde des sceaux. Gérald Darmanin veut stopper l'immigration légale pendant 3 ans.
Oui, comme ça l'administration française aura enfin le temps de traiter les dossiers de 2019, voire de 2020. Et pour fêter ça, Gérald Darmanin va commander une pizza. Mmh. Alors, voyons voir. Votre livreur arrivera à 20h37. Eh ben, c'est parfait. Le 28 mai. Ah merde. 2031. Ah non, ça va pas du tout. Ouvrez les frontières. On s'en sort pas. Plus d'immigration pendant 3 ans. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont raconter sur Europe 1? Bonjour et très heureux de vous retrouver pour ces 3 heures d'émission. 3 heures! Eh oui, 3 heures. 180 minutes, hein. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire, moi? Il n'y a plus d'immigrés. Et l'émission va durer 3 heures. Et après, alors après, demain, il y aura l'émission de demain. Ne la loupez pas, elle va durer 3 heures aussi. Et on parlera de... pas d'immigrés déjà, et allez, allez, l'émission est déjà finie, c'est déjà fini. Laurence Ferrari, c'est à vous. Oh non, 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 c'est à vous. Non, non, c'est à vous, les dames d'abord. Et moi, ça m'arrange pas, mon émission, elle dure 2 heures. Oui, bah la mienne, elle dure 3 heures. Pareil au RN, ils doivent paniquer, Jean-Philippe Tanguy et Sébastien Chenu, ils ont dû avaler de travers. Tanguy et Chenu, vous voyez, c'est les deux figures les plus emblématiques sur le RN, à part Marine et Jordan. C'est un duo rigolo, quoi. C'est un peu comme une sitcom, c'est moi Chenu.
C'est moi Tanguy.
C'est moi le grand.
Et moi le petit.
C'est moi Chenu.
C'est moi Tanguy. Et nous sommes du même avis. Salut Chenu.
Salut Tanguy.
Dis donc Chenu, est-ce que t'as vu que Darmanin propose de supprimer l'immigration légale pendant 3 ans?
3 ans? Non mais alors là, mais vraiment, monsieur n'importe quoi. Mais on va parler de quoi aux Français? De notre programme économique?
Sinon, on pourrait leur parler de notre programme de politique internationale, il est super bien. Sinon, on pourrait parler d'écologie, on est crédible là-dessus.
Bon, bah, c'est un peu chiant. Les gens qui rigolent, vraiment, c'est pas au niveau. Pas au niveau.
Vous nous refaites le petit jingle, c'est moi.
C'est moi, Chenu. Ah, réécoutez-le en podcast.
Oh, il est trop beau, il est trop beau.
Très dur à faire la première fois.
C'était magnifique.
Arnaud Demange à retrouver en podcast sur l'appli RMC sur rmc.fr. Dans un instant, la météo et un nouveau journal.
RMC, Apolline Matin.
C'est l'heure d'un nouveau journal avec Clément Gouiz. Bonjour Clément.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Un peu d'optimisme ce matin en Gironde. L'incendie qui n'est toujours pas fixé. Elle n'a pas gagné de terrain cette nuit. Il est stabilisé, mais le travail des pompiers s'annonce compliqué aujourd'hui en raison des mauvaises conditions météo. Un décor d'après-guerre au Porges, en Gironde. C'est ce que le feu a laissé derrière lui. Des maisons détruites, en cendres, un paysage totalement transformé. Témoignage RMC dans ce journal. Et c'est à vivre sur RMC. Dès 11h, le début de l'ère Zidane, le champion du monde 80 18 sera officiellement nommé sélectionneur des Bleus.
La nuit a été calme en Gironde.
L'incendie est stabilisé. Les pompiers ont dû traiter plusieurs reprises de feu cette nuit, mais l'incendie n'a pas gagné de terrain ces dernières 24 heures. Reste maintenant à le fixer. Justement, Jean-Wilfried Forquès, vous êtes notre envoyé spécial RMC en direct ce matin de Lège-Cap-Ferré. Les mauvaises conditions météo du jour inquiètent les pompiers. Hein.
Oui, c'est ça. Il va faire très chaud dans les prochaines heures. 40 degrés attendus aujourd'hui, 42 degrés attendus pour demain. Et des conditions hydrométriques qui vont compliquer tout ça, notamment avec du vent en plus qui va se rajouter avec des fortes rafales attendues. Alors, tout à l'heure, le chef du secteur ici a passé le relais à son collègue de la journée. Il lui a dit, ben voilà, il faut poursuivre le combat sur le terrain. Alors, on déploie des cartes sur les véhicules de pompiers en ce moment et on organise le travail de la journée. Il s'agit une nouvelle fois de combattre les fumerons au sol, de noyer complètement les lisières. Et pour cela, eh bien, il y a des pompiers qui viennent de absolument partout. Il y a des pompiers d'ici, d'Andernos, de Gujan-Mestras. On était avec eux ce matin. Il y a des marins-pompiers également de Marseille ou des pompiers, des sapeurs-pompiers qui sont venus de Montpellier. Au total, aujourd'hui, pour cette journée de mardi, il y aura environ 1500 pompiers qui seront sur le terrain déployés pour noyer eh bien ces lisières et puis stopper la progression éventuelle des fumerons.
Jean-Wilfried Forquès en direct du PC Pompier de Lège-Cap-Ferret pour RMC. La 63 toujours fermée entre Bordeaux et Bayonne et trafic SNCF toujours interrompu au sud de Bordeaux. Ce témoignage RMC d'Apolline Matin de cet habitant du Porge en Gironde, Yves Brugy, regarde, il a perdu sa maison ravagée par les flammes.
C'est l'apocalypse inimaginable. C'est des visions d'horreur. On ne comprend pas comment un pays qui se veut être une puissance mondiale puisse faillir à ce point-là et permettre que des familles soient brisées. Quelques murs qui sont debout, mais il ne reste rien. Tout s'est effondré. À l'intérieur de la maison, on ne reconnaît même pas les meubles. Il va falloir demander des comptes à l'État. Comment ça a pu avoir lieu, la chaîne de décision, parce qu'on a entendu quelques décisions qui nous semblent un peu aberrantes. Il y a beaucoup de colère, on veut des réponses.
L'incendie dans l'élan, lui, est fixé, annoncé hier d'Emmanuel Macron. 3600 hectares brûlés et près de 200 bâtiments détruits.
Et une chaîne de solidarité se met en place pour accompagner sur le terrain les pompiers.
Des Français qui se mobilisent partout dans le pays pour apporter leur aide. Martin Lange a pu échanger avec plusieurs de ses volontaires.
David est agriculteur en Charente. Après avoir vu les premières images de l'incendie, il n'a pas hésité une seconde.
J'ai dit alors, mon chauffeur était motivé, j'ai dit on part. La solidarité agricole a toujours existé, j'ai un tracteur et une citerne, j'ai toujours fait ça.
Depuis samedi soir, il se bat aux côtés des pompiers.
On ravitaille les camions pour des reprises de petits feux, des fumerolles qui traînent par-ci par-là. Quand on n'alimente pas les camions, on est en première ligne, on stoppe le feu comme on peut.
D'autres collectent des denrées ou des produits d'hygiène. Kevin a fait 600 km depuis le Maine-et-Loire pour les acheminer jusqu'en Gironde vendredi dernier.
On a tout mis en fait sous sac sous vide pour que ça puisse passer dans la voiture, mais vraiment jusqu'au plafond.
600 serviettes et 400 gels douche reçus comme une bénédiction à Montussan, à quelques kilomètres des flammes.
On a été accueillis les bras ouverts, ils étaient vraiment émus par la quantité, surtout qu'il y ait une mobilisation comme ça qui vienne de toute la France.
Autre initiative dans la Creuse, la ville d'Aubusson a décidé d'ouvrir son camping municipal aux vacanciers piégés par les flammes. Stéphane Ducourtiot, le maire.
On est situé à 300 kilomètres, donc un peu loin de tout, et on s'est posé la question, on comprend ce qu'on peut se rendre utile. On ne peut pas aller éteindre les incendies, pourquoi pas leur proposer de faire une halte en Creuse.
Une soixantaine de places sont actuellement disponibles gratuitement. Une solution de repli supplémentaire pour la préfecture de Gironde.
Alors, quelle solution proposer aux sinistrés? Emmanuel Macron appelle à la solidarité. Le gouvernement s'active, multiplie les réunions, annonce l'activation du chômage partiel pour les 13 000 entreprises sommées d'évacuer en Gironde. Et Sonia Gobry, les assureurs prennent aussi des engagements.
Oui, le délai pour transmettre les déclarations de sinistrés est prolongé jusqu'au 31 août. Ça laisse un peu plus d'un mois au lieu de 5 jours habituellement. Ensuite, les assureurs prendront en charge pendant 3 semaines les frais de relogement des personnes évacuées en Gironde, dans les Landes et dans le Var, que les logements aient été endommagés ou non. Une mesure exceptionnelle, souligne Olivier Moustakakis, cofondateur d'Assurlande.
Ça, c'est une vraie mesure, en effet, et un vrai geste de la part des assureurs. Même sans dommage, d'accord, l'assurance va prendre en charge, en effet, les frais de relogement, alors sur une période de 3 semaines. Au-delà de ces mesures, le vrai montant d'indemnisation va constituer sur les habitations qui ont été détruites ou endommagées.
À titre de comparaison, pour les violents incendies en Gironde en 2022, près de 2000 sinistres ont été indemnisés pour environ 80 millions d'euros.
Le montant sera plus important qu'en 2022 sur l'ensemble des sinistres, parce qu'il y a des entreprises aussi qui ont été touchées. Il y a probablement aussi des agriculteurs dont les récoltes ont été impactées.
Conséquence, il y aura selon lui une nouvelle hausse du prix des assurances. assurances alors que les tarifs ont déjà augmenté de 13% en moyenne cette année.
Et la traque des incendiaires s'intensifie. 162 personnes ont été interpellées depuis le 6 juillet pour des départs de feu volontaires annoncés hier du Premier ministre Sébastien Lecornu qui promet une réponse pénale ferme face à ceux qui alimentent ces catastrophes. Deux nouvelles plaintes contre Patrick Bruel. Elles ont été déposées le 16 et 23 juillet dernier. Deux femmes l'accusent de viol et d'agression sexuelle, des faits a priori à prescrit. Le chanteur déjà mis en examen est visé par au moins 33 plaintes.
Il est 8h36, c'est une légende du foot qui prend les commandes des Bleus.
Zinedine Zidane va devenir ce matin officiellement sélectionneur de l'équipe de France. Et Clément Brossard, avec son aura et son palmarès, Zizou arrive en terrain conquis.
Ancien attaquant du Real Madrid, Karim Benzema l'assurait déjà en 2019 pour RMC Sport.
Quand tu vois que voilà, un mec comme Zidane arrive pour t'entraîner, t'as tout de suite envie.
Alors nul doute, pour Emmanuel Petit, son ex-coéquipier chez les Bleus, Zidane saura se faire respecter.
Moi c'est surtout un meneur d'hommes que j'ai envie de voir. Quand Zizou rentre dans une pièce, tout le monde se tait. Ce genre de personnes n'ont pas besoin de beaucoup parler pour rentrer dans la tête des gens. J'imagine que les joueurs ont peut-être hâte de jouer sous les ordres de Zizou.
Des joueurs qui découvriront sa méthode, beaucoup de travail avec ballon, du plaisir, de la créativité et de l'intensité, mais surtout une valeur, le collectif, comme il l'expliquait il y a quelques mois dans le podcast de son adjoint, Amidou Saïdi.
Moi j'ai toujours fait un sport collectif parce que je voulais partager des choses. Le fait de se retrouver, de profiter d'une passion ensemble, moi c'est ce qui m'anime.
Zidane sera entouré dans sa mission d'un staff XXL de presque 25 personnes avec une priorité, faire passer les joueurs avant tout.
T'es là pour le joueur. Si t'as pas compris ça, tu peux pas durer dans ce métier. T'es là pour montrer que t'es là pour eux. Mais tu sais très bien que le joueur, à la fin, il faut que tu gagnes. Il va nous juger, nous, staff, sur ça.
Et c'est également sur sa capacité à remporter des titres majeurs que Zinedine Zidane sera jugé par le grand public.
Son premier match sur le banc des Bleus est prévu le 25 septembre prochain face à la Turquie. Vous n'aurez rien de cette annonce avec une émission spéciale à partir de 11h sur RMC et ce soir de 20h à 23h, l'after foot entièrement consacré à Zidane.
Le quintet, c'est à Compiègne aujourd'hui, 18h30.
Le pronostic de la Dream Team, leur favori, le 2, leur outsider, le 3, Botticelli.
C'était le journal de Clément Gouitz sur RMC. Il est 8h38.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
À suivre sur RMC, l'invité du jour, c'est ce matin Marine Tondelier, la patronne des écologistes, qui estime que l'État porte une lourde responsabilité dans les incendies. Elle parle même de pyromane politique. Et puis, parole de supporter, on va revenir sur la nomination de Zidane à la tête des Bleus. Et on sera à Marseille, où vous allez voir que Zizou est toujours une légende. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 8h42, vous êtes bien sur RMC. Et c'est l'heure du choix de la rédaction ce matin avec vous, Diane Carlotti. Bonjour, vous êtes journaliste RMC Sport. La Fédération Française de Foot va donc officialiser le nom du successeur de Didier Deschamps. Et ce sera donc Zinedine Zidane, l'idole marseillaise qui va occuper ce poste. Et justement, hein, à Marseille, l'arrivée de Zizou, c'est surtout le retour de la légende dans son pays.
Oui, quand on est français et qu'on aime le football comme Steve, Zidane, c'est...
C'est comme Michael Jackson. Encore aujourd'hui, on a qui l'écoute, alors qu'il est mort il y a déjà très longtemps. C'est la plus grande légende pour moi, plus que Platini, mais c'est un autre niveau.
Le Marseillais, champion du monde et ballon d'or en 1998, a fait rêver des générations par ses gestes techniques de grande classe et sa vision du jeu unique.
Dans l'axe, Zinedine, le contrôle ! Le contrôle est levé !
Mais il ne faut pas croire que cet amour inconditionnel pour Zizou se limite aux nostalgiques qui ont vécu ses plus grandes heures. Calvin et Mohamed ont moins de 25 ans et ne l'ont donc jamais vu jouer. Pourtant, ils admirent l'ancien numéro 10.
C'est l'idole de tout le monde en France. Il n'y a pas une personne qui peut mal parler de Zizou.
Nos parents nous en parlent, nos grands-parents nous en parlent. On nous raconte ce que Zidane a fait. On a pu voir aussi, grâce aux archives, ce qu'il a pu accomplir. Du coup, ça nous a transmis cette admiration envers Zidane.
Pour les anciens, Zizou, c'est le doublé face au Brésil en Coupe du Monde 98.
Premier poteau, il y a eu deux corners et c'est le doublé de Zinedine Zidane.
Mais aussi un côté plus sombre avec ce coup de tête synonyme d'expulsion en finale du Mondial 2006 pour son dernier match avec les Bleus.
Pas ça, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait.
Dorian et les jeunes fans de foot, eux, retiennent surtout que Zidane a déjà fait ses preuves comme entraîneur de club.
Je pense au Real, ce qu'il a fait comme entraîneur. Et avec trois Ligue des Champions d'affilée, je pense que c'est la bonne affaire.
Un avis que partage le perchiste Renaud Lavillény, autre légende du sport français.
Tout le monde a rêvé et on l'a. Un champion du monde qui remplace un autre champion du monde. Sur le papier, c'est cool, quoi. On a tous, je pense, hâte de voir ce que ça va donner.
Alors la question qu'on se pose, Diane, c'est est-ce que arriver avec ce statut de champion du monde, ce statut de légende, c'est une garantie de réussite ou c'est même un risque pour Zidane ?
Oui, justement, on a demandé à d'autres icônes du sport tricolore, nos consultants RMC Sport, ce qu'ils en pensent. Et Emmanuel Petit, champion du monde 98, lui aussi, croit en l'aura de son ex-coéquipier.
Dès qu'on parle de Zizou, on rentre un petit peu dans l'irrationalité. Tout ce qui touche se transforme en or. Si demain il est sélectionneur, est-ce qu'il pourra justement transformer en or les objectifs de l'équipe de France? J'aime à penser que oui.
Dans l'histoire des Bleus, on a l'exemple d'une légende devenue sélectionneur, Michel Platini, en 1988. Et l'aventure n'avait pas été un franc succès. Alors, Jérôme Rotten, qui a évolué en bleu aux côtés de Zizou entre 2003 et 2006, attend que l'ancien du Real Madrid fasse ses preuves.
Il va falloir qu'il trouve des arguments, des ingrédients peut-être différents. Et là, on est en droit de se poser des questions. Moi, j'ai plein d'interrogations sur Zidane, mais je pense comme tout le monde. Après, je dis pas qu'il va pas y arriver. Il a, et ça durera un certain temps, mais ça va pas durer longtemps, cette aura-là, aujourd'hui, auprès des joueurs, auprès du grand public.
Pour trancher, on a laissé le soin à l'ancien judoka David Douillet, double champion olympique et légende du sport français de s'en charger. Alors David, risque ou pas risque pour Zidane?
Un risque de quoi? Un risque de pas réussir, c'est le sport. Il le sait. C'est dans l'étroitesse du chemin qui peut t'amener à la victoire que tu trouves tout ton plaisir. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il a en lui et qu'il recherche parce que c'est un vrai compétiteur.
Reste à savoir si Zinedine Zidane, le compétiteur, fera mieux que son ex-coéquipier Didier Deschamps à la tête des Bleus.
Diane Carolotti, reportage RMC Sport. Alors, on est avec Stéphanie au 32-16. Bonjour Stéphanie.
Oui, bonjour.
Bienvenue bonjour. Au 32-16. Stéphanie, merci. Fan de foot?
Fan de foot, oui, abonné à l'OM, vraiment fan de foot, puisque
on alors est Zidane, est-ce que c'est l'homme de la situation?
Alors j'espère, en tout cas, je pense que cette nouvelle est attendue par les millions de fans de foot et fans de Zidane, parce que c'est Zidane, quoi. Il n'y a pas de, je sais pas. Enfin, pour moi, c'est un joueur incroyable, c'est un homme qui a une aura qui rayonne vraiment sur tous les joueurs, je pense, qui l'encadrent. Et puis, Zidane, c'est le symbole de notre première victoire en Coupe du Monde. Donc au-delà du joueur en lui-même, je pense qu'il représente vraiment quelque chose dans le cœur des Français. C'est vraiment un type en plus qui est humble, je pense, enfin, en tout cas de ce que l'on en connaît de par les réseaux ou par les médias. On a vraiment l'impression que c'est un homme respectueux qui va aller jusqu'au bout et qui a des valeurs, et j'espère qu'il va pouvoir mener l'équipe de France très très loin avec un beau jeu.
Et gagner, on verra si cette aura a un effet sur les joueurs, forcément, dans le vestiaire. Merci beaucoup Stéphanie d'avoir composé le 32-16 ce matin, et à très vite sur RMC. Dans un instant, on revient sur les incendies. L'État porte une très lourde responsabilité, accuse la patronne des écologistes Marine Tondelier. Elle est avec nous en direct dans un instant. Elle parle de pyromane politique. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 8h49 et vous êtes bien sur RMC et sur RMC Story. L'État accusé d'impréparation. A-t-il une responsabilité dans les incendies terribles que nous vivons? Bonjour Marine Tondelier.
Bonjour et merci de votre invitation.
Merci à vous d'être avec nous en direct ce matin. Vous êtes la secrétaire nationale des écologistes, candidate à la présidentielle. Vous dites l'État a une lourde responsabilité. Vous dénoncez même des pyromanes politiques. On a des pyromanes au gouvernement?
Oh, pas qu'au gouvernement, vous savez, mais on a quand même une majorité présidentielle et puis beaucoup de gens qui sont à leur droite, qui ont voté depuis des années, beaucoup de recul dans la lutte contre le climat et qui ont même voté contre les mesures que nous proposions pour améliorer la protection civile, les conditions de travail des pompiers. Vous pouvez regarder les votes à l'Assemblée nationale, c'est très très clair.
Ça n'est qu'une question de budget? J'imagine que non,
c'est pas qu'une question de budget, c'est une question déjà en fait d'urgence climatique qui devrait être déclarée dans le pays et on devrait se mobiliser là-dessus, une forme d'état d'urgence. Et puis il faut un état-providence climatique. Vous savez, quand on a monté la sécurité sociale dans les années 45, là, juste après la guerre, évidemment, le risque climatique, on l'avait pas encore tous en tête comme ça, il était beaucoup plus loin. Aujourd'hui, maintenant qu'il est là, on doit protéger tous les Français, et c'est le rôle de l'État face au risque climatique. Ça veut dire améliorer le régime des catastrophes naturelles, ça veut dire faire évoluer le droit du travail pour mettre le congé climatique, ça veut dire aussi aider, par exemple, les maraîchers qui viennent de perdre 20% à peu près en moyenne de leur récolte déjà et qui n'ont pas de plan d'aide là-dessus, contrairement aux céréaliers. Il y a plein de mesures sur lesquelles l'État doit s'engager pour nous protéger. C'est pas ce qu'ils font. Eux, ils font qu'aggraver les mesures. Par exemple, dire on pourra faire plus de méga porcherie et plus de méga élevage de volailles. Est-ce que c'est vraiment le moment et la priorité, sachant qu'on sait la contribution de l'élevage au changement climatique? Non. Nous, on est pour les petits éleveurs qui crèvent d'ailleurs de ces méga élevages pour manger de la viande de meilleure qualité, accessible à tout le monde. C'est pour ça qu'on veut une sécurité sociale de l'alimentation. Mais quand on voit que le gouvernement est occupé sur les méga élevages, à dire aussi qu'on va remettre des pesticides dangereux dans l'air, à renoncer sur beaucoup de ses objectifs climatiques.
Vous reliez la sécheresse à toutes les problématiques environnementales. Mais très concrètement, Marine Tondelier, vous, présidente de la République, est-ce que vous auriez empêché cet incendie?
Il y a toujours eu des incendies, il y en aura toujours. Mais vous voyez bien qu'à mesure que le changement climatique progresse, les incendies, on a de plus en plus de mal à les maîtriser parce qu'il fait chaud, parce qu'il y a la sécheresse, parce qu'on a planté, par exemple, dans les Landes, des mono-espèces, des monocultures de pins dont on sait qu'ils s'apparentent à une boîte d'allumettes. Tout ça, c'est des choses que nous dénonçons depuis longtemps. Et puis moi, je vais vous dire, on est bientôt le 4 août. Et le 4 août 1789, à la Révolution française, on avait voté l'abolition des privilèges pour le clergé et la noblesse. Eh bien, je pense qu'il est temps de voter l'abolition des privilèges climatiques. Ça pourrait être le 4 août 2026, qui sait. Et qu'on mette fin
à ces
privilèges.
C'est quoi les privilèges climatiques?
Vous voyez, les milliardaires, les 50 les plus riches de cette planète, en 90 minutes, ils émettent autant de CO2 qu'un humain moyen dans toute sa vie. Et donc, ce sont des personnes qui sont principaux contributeurs au changement climatique, mais qui ont les moyens de s'en préserver. Là, je voyais maintenant que les ultra-riches, ils se construisaient des igloos d'intérieur. Fort bien. Pendant ce temps-là, nous, on est victimes des canicules, quatrième vague bientôt. Les agriculteurs perdent leur production, des Français perdent leur maison, et on n'est pas aider et protéger par rapport à ça. Donc maintenant, les super yachts, les jets privés, il faut leur interdire d'atterrir en France et en Europe, point. C'est terminé en 2026, c'est plus possible.
Marine Tondelier, à la question de la forêt, vous citiez ce qu'on appelle la monoculture, c'est-à-dire ces forêts entièrement plantées de pins qui ont déjà beaucoup brûlé en 2022 en Gironde, on en avait déjà beaucoup parlé à ce moment-là. Ça veut dire qu'il va falloir replanter différemment cette forêt qui a brûlé aujourd'hui?
Bien sûr, et vous savez, on a des experts de la forêt dans ce pays, ça s'appelle l'Office National des Forêts, l'OMF, l'ONF, et ils ont perdu 40% de leurs moyens ces dernières années sur des mesures gouvernementales, tout comme d'ailleurs Météo France, que le gouvernement prévoyait de remplacer petit à petit par l'intelligence artificielle. Eh bien voilà, déjà il faut garder nos experts, c'est toutes les structures qui sont experts de l'environnement sont en train d'être attaquées en règle financièrement et pas que par le gouvernement et par d'autres à droite. Ensuite, il faut écouter ce que disent les experts des forêts. Ils ont toujours dit que les monocultures c'était pas bon, c'est pas des forêts qui sont là pour rafraîchir ou pour juste pour la beauté de la nature, c'est des forêts qui sont là pour l'exploitation sylvicole.
C'est des forêts privées d'ailleurs.
Oui, d'ailleurs, du coup, c'est des coupes rases, etc. Quand M. Macron avait annoncé un grand plan forêt il n'y a pas longtemps, on venait nous voir les écolos en disant « Mais vous êtes vraiment jamais contents, même là, quand ils plantent des arbres, vous le soutenez pas ?» Non, parce qu'en fait, ce qu'ils promouvaient, c'était des coupes rases et des plantations d'espèces qui poussent très très vite, qui sont exploitables très rapidement, ce qui était vraiment un objectif de rentabilité plus que de protection de l'environnement et de lutte contre le changement climatique.
On a une liaison qui, semble-t-il, a coupé avec Marine Tondelier. On va essayer de rappeler Marine Tondelier qui nous disait donc qu'il fallait arrêter avec ces forêts de monoculture entièrement plantées de pins. Il y a des messages aussi sur ces questions-là, sur la question des moyens aussi, sur le WhatsApp RMC. Victor.
La question des moyens qui reviennent et ces gens qui ne comprennent pas, ces auditeurs d'RMC qui ne comprennent pas pourquoi on a mis tant de temps à s'adapter, d'autant plus après ces incendies de 2022. On a aussi des messages qui reviennent sur la responsabilité individuelle, j'ai même envie de dire citoyenne. On a Fabien qui nous dit j'ai vu des images passer sur les réseaux sociaux de certaines personnes, de certains habitants qui faisaient brûler des déchets végétaux près d'une forêt. Alors oui, les pompiers peuvent lutter contre le feu, nous écrit Fabien, mais ils ne peuvent pas encore lutter contre la bêtise humaine. Et Fabien de rajouter depuis la Charente-Maritime qu'il exprime tout son respect et son courage aux forces pense des soldats du feu. On a aussi Christian qui pense à ces gens qui ont été atteints, ces sinistrés, en nous disant mais psychologiquement les conséquences de ces incendies vont certainement être terribles pour ceux et celles qui ont tout perdu. Reconstruire sur le terrain, c'est parfois très difficile, surtout dans un temps raisonnable.
Un dernier mot avec Marine Tondelier qu'on vient de retrouver. Pardon, la liaison avait coupé. Marine Tondelier, est-ce que cet été de bascule sur la canicule, sur la chaleur, sur les incendies que nous vivons, est-ce que ce contexte va changer la campagne présidentielle selon vous, ou vous pensez qu'en avril prochain on aura déjà tout oublié?
Bah, écoutez, on connaît le syndrome de l'autruche. Le syndrome de l'autruche, c'est un mécanisme mental qui fait que face à des nouvelles très dures, le cerveau se bloque, se protège en fait de mauvaises nouvelles. C'est pas une question d'intelligence, c'est vraiment un mécanisme de protection. Les neuroscientifiques le décrivent très bien. C'est le même que si vous avez un examen médical angoissant et que vous n'allez pas en fait ouvrir l'enveloppe parce que vous avez peur du résultat. Bon.
Donc on va tout mettre de côté, risque, on va tout oublier.
Bah, le vrai risque, c'est que dès que les incendies sont derrière nous, c'est pas tout de suite, hein, et que les températures baissent un petit peu, on est tous envie de passer à autre chose. Et puis vous savez comment marche le système médiatique, une actualité en chasse une autre, ça va très très vite dans nos sociétés actuelles, et tout le monde aura envie de penser à autre chose à la rentrée. C'est pour ça que les écologistes ont demandé à ce qu'il y ait une réunion d'urgence à Matignon ou à l'Élysée avec toutes les forces politiques, parce que nous voulons que dès cet été, des mesures fortes soient annoncées, notamment des mesures sur la programmation en procédure d'urgence de la loi qui aurait dû suivre le Beauvau de la sécurité civile.
Et vous demandez cette loi dès la rentrée avec
une réunion
autour des
Emmanuel Macron. Il faut la mettre à la rentrée, et puis une loi de programmation climatique. Enfin, ça fait 4 ans qu'on la réclame.
Merci beaucoup.
Maintenant, c'est le moment. Merci.
Merci
à vous.
Marine Tondelier, pardon pour cette coupure de liaison, secrétaire nationale des écologistes, dans un instant sur RMC. C'est vos grandes gueules, juste après le journal de 9h. On vous souhaite une très belle journée. On se retrouve demain avec Victor et avec toute l'équipe. Bonne journée.